L'aventure intérieure, suite. J'aime, voilà ce qu'est la manifestation. Maharaja, il doit bien exister une puissance quelconque responsable de cette création. Cette puissance est le soi que chacun possède en lui, dans son être. Mais cette puissance, ce pouvoir, est liée au temps. À partir du moment où il apparaît, jusqu'au moment de sa disparition, l'être automatiquement crée. Auparavant, il n'y avait rien, et après, il n'y aura rien. C'est seulement pendant la durée de l'être que sont le monde et la création. Ce pouvoir créateur est la foi dans le concept primordial « je suis ». C'est ce concept « je suis » qui tisse la toile de la création. La manifestation tout entière est une apparence au sein de ce concept « je suis ». Au stade ultime, tout fusionne dans le soi. Le soi est la source même de l'amour. Son potentiel est tel qu'après avoir pourvu d'amour le monde entier, il subsiste toujours. Il subsiste et se maintient dans cette semence « je suis ». Ce « je suis » est ce qui reste de cet amour, cette pointe d'épingle, cette trace de « je suis » est la quintessence de toute essence. Seul le soi est. Penchons-nous sur le soi, la connaissance « je suis ». Tout ce que vous avez à comprendre, c'est que vous aimez le soi et que le soi vous aime, et que le sentiment du « je suis » est le lien entre vous deux, un témoignage de l'identité en dépit de la diversité apparente. Regardez le « je suis » comme un signe d'amour entre l'interne et l'externe, le réel et l'apparence. Rappelez-vous votre être. La connaissance « je suis », c'est-à-dire l'être, est le produit de l'attribut harmonie. Harmonie, inertie et énergie, les trois attributs qui sont en jeu dans la manifestation. L'harmonie, l'essence vraie, a la propriété de vous faire connaître que vous êtes et de vous fournir cette base d'action. L'énergie, elle, est le facteur motivant, il vous pousse à agir. L'inertie est la consolidation. De la même façon, le « je suis » est la graine de la manifestation dans laquelle l'action se produit. Il n'y a pas d'entité agissante. La conscience est partout, latente ou sous une autre forme. D'abord, il y eut la conscience. La conscience qui subsiste est la conscience universelle. C'est d'elle que naît le monde, et non pas du point de vue de la personnalité individuelle. Vous venez ici, chacun avec un type d'éducation particulière. Je veux faire échec à l'éducation acquise et à la nourriture que vous avez absorbée. Avant d'avoir assimilé cette nourriture et cette connaissance, qu'étiez-vous? Je vous demande d'y réfléchir. Maharaja, qu'est-ce que la conscience? L'activité de votre être et l'activité que vous voyez, celle du monde entier. La conscience est dénuée de couleurs, mais là où il y a la personnalité, elle prend la couleur de la personnalité. La conscience, c'est l'activité de votre être et l'activité que vous voyez, l'activité du monde entier. Quand l'être disparaît, la personnalité de couleur particulière se fond dans l'un sans couleur. La conscience est exempte de différence. Elle est une, mais nous l'appelons par des noms différents. Elle est toute connaissance, toute conscience. Elle est illimitée. Lorsque le goût de l'être que vous avez actuellement se mêle à la conscience universelle, alors la conscience n'est plus celle de l'individualité limitée. L'être n'est venu de nulle part et il ne va nulle part. Vous êtes l'existence, sans désir et sans objectif. Le grand un, d'où ont émergé plusieurs univers de manifestation et où ils sont retournés. Tout ce que vous avez entendu, toute bribe de connaissances, tout incident de votre vie a été enregistré par la conscience, même si vous croyez l'avoir oublié. La conscience enregistre continuellement ce qui se produit. Les cinq sens enregistrent sans cesse. Avant de connaître votre soi, vous ne pouvez pas savoir ce dont vous avez besoin ou pas. Quoi que vous fassiez jusque-là est sans utilité. Ce principe est la connaissance la plus ancienne, la base de tous les concepts. Connaissance n'est qu'un mot pour le désigner, car il n'a ni nom ni forme. Il est la source de toute perception. Il n'a besoin ni de paix, ni de quiétude, étant en soi paix et quiétude. Ce principe de la quiétude fondamentale, exempt de dualité, ne subit jamais aucun changement. Il est au-delà de tout état. Ce qu'on perçoit grâce au sens, quoi que ce soit, ne peut être qu'un mouvement de la conscience qui est présente dans les états de veille et de sommeil. Tout ce qui se produit dans ces états est obligatoirement passager. La conscience elle-même est Dieu, et l'être, ou conscience, est ce qui nous apprend le secret de toute manifestation, de toute création. Rien d'autre ne le fera, tout le reste n'est que concept. Avant que le principe fondamental, la connaissance fondamentale de l'être, ou conscience, vous apprenne son secret, avant que vous soyez dans son intimité, toute connaissance que vous acquérez est forcément basée sur des concepts et ne peut être que fausse. Et ce principe fondamental, source de toute connaissance, est lui-même lié au temps. La conscience ne vous apporte pas seulement la connaissance de votre propre existence, elle vous permet aussi de connaître le monde. Et quand elle disparaît à la mort du corps, il n'y a plus ni connaissance de soi, ni du monde. La connaissance secrète de la manière dont je suis venu à être sans aucun effort ne vous sera révélée que par l'être conscient. Tout maître qui vous délivre la connaissance spirituelle fonde forcément cette connaissance sur son propre concept, celui qu'il considère comme représentant la vérité. Ce concept peut être excellent, mais il reste un concept. Et quelque compréhension que vous essayez d'obtenir par son intermédiaire, elle ne sera pas permanente. Que je puisse vous exposer la connaissance grâce à la graine « je suis » est quelque chose d'étonnant. À la conception de votre être. À la conception, votre être est à l'état latent. Mais c'est sa présence qui assure le développement du fœtus. La conscience qui donne la perception est le soi. Ce qui est conscient de la conscience est l'absolu. Commencez à méditer. Le soi vous guidera. Le soi est l'esprit immanent manifesté. Ne lui donnez pas de forme. Ne le conditionnez pas en lui donnant la forme d'un corps. Maharaja, quand on est en méditation et qu'il n'y a pas de pensée, peut-on dire que le mental s'est dissous dans le soi? Oui. Ce qu'est le soi sans le corps vous sera révélé dans la méditation. L'identité du soi ou l'état de bonheur extatique du soi en l'absence de corps doit vous être révélé alors que vous habitez toujours votre corps. Vous devez atteindre cet état en dépit de l'existence du corps. Le principe divin dans le corps va évincer le corps. Faites connaissance de ce principe alors que vous êtes en vie. Apprenez à le connaître et devenez un avec lui. Vous ne garderez pas votre corps à jamais. La conscience est la réflexion de la pure conscience qu'est l'absolu. Posez-vous des questions sur l'esprit qui habite le corps, le Dieu immanent au corps. L'aventure intérieure, l'un, l'être réel. C'est l'instinct d'explorer, c'est l'amour de l'inconnu qui me pousse dans l'existence. C'est naturel de la part de l'être de chercher l'aventure dans le devenir, comme il est naturel, pour le devenir, de chercher la paix dans l'être. Ces modifications de l'être et du devenir sont inévitables. La conscience et la matière sont les aspects actifs et passifs de l'être pur qui se situent dans les deux et est au-delà des deux. Mon foyer, c'est l'immuabilité qui apparaît comme un état de constante réconciliation et d'intégration des contraires. Mon sentiment est que tout ce qui se passe dans l'espace et dans le temps m'arrive à moi, que toute expérience est mon expérience, que chaque forme est ma forme. Ce que je pense être à moi devient mon corps, et tout ce qui arrive à ce corps devient mon mental. Mais à la base de l'univers se trouve la pure conscience, au-delà de l'espace et du temps, ici et maintenant. Sachez quel est votre être authentique et agissez selon ce savoir. C'est l'absolu qui est en vous, qui vous mènera à l'absolu qui est au-delà de vous, la vérité absolue. Le témoin n'est pas une personne. L'existence ne se manifeste dans l'individu que lorsqu'il y a pour cela une assise, un organisme, un corps. Dans la personne, l'absolu se reflète comme conscience. La pure conscience devient conscience de soi quand il y a un soi. La conscience de soi est le témoin. Quand il n'y a pas de soi pour être le témoin, il n'y a pas non plus de témoin. Conscience, mental, matière sont la même réalité sous deux aspects, l'immuable et le changeant. Et sous trois attributs qui sont l'inertie, l'énergie et l'harmonie. L'inertie obscurcit, l'énergie déforme, l'harmonie exprime. Avec la maturation de l'harmonie, tous les désirs et toutes les peurs se dissolvent. L'être réel se reflète dans le mental pacifié et immobile. La matière a été libérée et l'esprit révélé. Tous les deux sont vus comme un. Ils n'ont toujours été qu'un, mais le mental imparfait les percevait comme séparés. La perfection du mental est la mission de l'homme, car la matière et l'esprit se joignent dans le mental. Et si vous rejetez tous les enseignements, tous les livres, tout ce qui s'exprime en mots, si vous plongez profondément en vous-même et que vous vous y trouviez, rien que cela résoudra tous vos problèmes et vous laissera la pleine maîtrise de toutes les situations, parce que vous ne serez plus dominé par les idées que vous avez de la situation. Vous êtes le témoin immobile de la rivière de la conscience qui éternellement change, sans vous changer d'aucune façon. Votre propre immuabilité est tellement évidente que vous ne la remarquez pas. L'univers est en vous et ne peut pas être sans vous. Ce qui est capable de changement, alors que vous ne changez pas, peut être considéré comme indépendant de vous. Mais ce qui est immuable doit être regardé comme un avec tout ce qui est immuable, parce que dualité implique interaction et interaction sous-entend changement. En d'autres termes, l'absolument matériel et l'absolument spirituel, le totalement objectif et le totalement subjectif sont identiques dans leur substance comme dans leur essence. Vous pouvez appeler ce qui crée et soutient le monde Dieu ou la Providence, mais en dernier ressort, c'est vous qui êtes la preuve que Dieu existe et non l'inverse. Car avant que n'importe quelle question sur Dieu soit posée, il faut que vous soyez là pour la poser. Ce qui est primordial, c'est l'étendue infinie de la conscience, la possibilité éternelle, le potentiel incommensurable de tout ce qui fut, est et sera. Quand vous regardez quelque chose, c'est l'ultime que vous contemplez. Mais vous, vous imaginez voir un nuage ou un arbre. Apprenez à voir sans imagination, à écouter sans que se produisent des distorsions. C'est tout. Cessez d'attribuer des noms et des formes à ce qui est essentiellement sans nom et sans forme. Réalisez que tout mode de perception est subjectif, que ce qui est vu ou entendu, touché ou senti, ressenti ou pensé, attendu ou imaginé, est dans le mental et non dans la réalité. Alors, vous connaîtrez la paix et vous serez libéré de la peur. Même la sensation « je suis » est composée de la pure lumière de la sensation d'être. Le « je » est présent même en l'absence du « suis ». De même, la pure lumière est présente, que vous disiez « je » ou non. Devenez conscient de cette pure lumière et vous ne la perdrez jamais. L'être de tout être, la conscience éveillée d'être conscience, l'intérêt dans toute expérience, on ne peut le décrire. Et c'est cependant parfaitement accessible parce qu'il n'y a rien d'autre. Quand vous aurez réalisé que vous êtes la lumière du monde, vous réaliserez aussi que vous êtes aussi l'amour, que s'aimer, c'est savoir, et que de savoir, c'est aimer. L'amour de vous-même, d'entre toutes les affections, vient en premier. Votre amour du monde est la réflexion de l'amour que vous vous portez, parce que le monde est votre création. La lumière et l'amour sont impersonnels, mais ils se réfléchissent dans votre mental comme connaissance de soi et bon vouloir pour soi. Tout ce qui arrive dans votre conscience est votre maître, et la présence qui est au-delà de votre conscience est le maître suprême. Ne faites confiance à personne, pas même à vous. Cherchez, découvrez, supprimez et rejetez chaque affirmation jusqu'à ce que vous atteigniez les eaux de la vie et le rocher de la vérité. Résistez à vos vieilles habitudes de sentir et de penser. Après tout, vous devez vous rappeler que toutes vos préoccupations à votre sujet n'existent que pendant vos heures de veille et partiellement dans vos rêves. Dans le sommeil, tout est mis de côté et oublié. Cela vous montre combien votre vie éveillée a peu d'importance, y compris pour vous-même. Vous n'êtes même pas conscient de l'ampleur de la domination que vos considérations personnelles exercent sur vous. Un être humain devrait être en révolte permanente contre lui-même, car le moi rétrécit et déforme comme un miroir concave. C'est le pire des tyrans, parce qu'il vous domine totalement. L'abandon réel signifie ne rien faire sans y être incité par le maître. Vous vous mettez de côté, pour ainsi dire, et vous laissez votre maître vivre votre vie. Vous vous contentez de regarder et de vous émerveiller de la facilité avec laquelle il résout des problèmes qui vous paraissaient insolubles. Je regarde, mais je ne vois pas, dans le sens où voir, c'est créer des images habillées de jugement. Je ne décris pas et je n'évalue pas. Je regarde, je vous vois. Mais ni attitude ni opinion n'obscurcissent ma vision. Et si je détourne les yeux, mon mental interdit à la mémoire de s'attarder et il est immédiatement libre et neuf pour l'impression suivante. Ce dont vous êtes conscient n'est ni vous, ni votre. Ce qui est à vous c'est la faculté de percevoir, pas ce que vous percevez. C'est une erreur que de prendre le conscient pour la totalité de l'homme. L'univers est complet, et là où il y a plénitude, où rien ne manque, qu'est-ce qui pourrait être cause de souffrance? Il faudrait scruter avec soin cette personne et en percevoir la fausseté. Alors son pouvoir sur vous s'éteindra. En fin de compte, elle s'efface à chaque fois que vous dormez. Dans le sommeil profond, vous n'êtes pas une personne consciente d'elle-même. Et malgré tout, vous êtes vivant. Quand vous êtes vivant et conscient, mais non plus conscient de vous, vous n'êtes plus une personne. Pendant les heures de veille, vous êtes comme si, sur une scène, vous jouiez un rôle. Mais qui êtes-vous quand la pièce est finie? Vous êtes ce que vous êtes, ce que vous étiez avant que la pièce ne commence. Vous le restez quand elle est finie. En allant au-delà du mental qui limite, divise, oppose, en éteignant le processus mental tel que nous le connaissons, lorsque le processus cesse, l'autre mental naît. Pas les désirs tels que nous les connaissons, c'est-à-dire désirables ou répugnants. Cela devient plutôt une question d'amour qui cherche à s'exprimer et qui rencontre des obstacles. L'esprit qui inclut, c'est l'amour en action qui se bat contre les circonstances, d'abord vaincu, puis victorieux en dernier ressort. Le mental crée l'abîme, le cœur le traverse. Refusez toute pensée sauf une. Je suis. Au début, le mental se rebellera, mais avec de la patience et de la persévérance, il cédera et restera calme. Une fois que vous aurez atteint la tranquillité, les choses commenceront à se produire spontanément et tout à fait naturellement sans que vous ayez à vous en mêler. Le suprême donne l'existence au mental et le mental donne l'existence au corps. On appelle éther de la conscience ce en quoi se produit la conscience. La conscience universelle ou le mental. Tous les objets de la conscience constituent l'univers. Ce qui transcende les deux, qui supporte les deux, c'est l'état suprême, un état de tranquillité et de silence absolu. De même que l'univers est le corps du mental, la conscience est le corps du suprême. Il n'est pas conscient, mais il engendre la conscience. Le monde que vous percevez est fait de conscience. Ce que vous appelez la matière est la conscience même. Dans mon monde, l'amour est la seule loi. Je ne mendie pas l'amour, je le donne. Telle est ma nature. Chaque chose se meut selon sa nature. Chaque action provoque une réaction qui la contrebalance et l'annule. Tout arrive, mais il y a une neutralisation constante et en définitive, c'est comme s'il n'était rien arrivé. Je ne fais pas de distinction entre le corps et l'univers. Réaliser l'éternel, c'est devenir l'éternel, le tout, l'univers, avec tout ce qu'il contient. Chaque événement est le résultat et l'expression du tout. Et chaque événement est en harmonie fondamentale avec le tout. Toute réponse provenant du tout doit être juste, sans effort, instantanée. Ne faites pas confiance à votre mental et allez au-delà. Maharaja, que trouverai-je au-delà du mental? L'expérience directe d'être, de savoir, d'aimer. Connaître, c'est être. Ce dont je vous parle, je ne le connais pas par la lecture ou par ouï-dire. Ce qui arrive à travers moi, que ce soit spirituel ou matériel, ne se prolonge pas en multiples modifications intellectuelles, parce que toute action est à la fois spirituel et universel. C'est par sa stabilisation dans l'inconnu que la spiritualité devient parfaite. Un individu se connaît lui-même au travers de certains concepts, et selon ces concepts, enregistre plaisir ou souffrance. Mais cette compréhension de soi est fausse. La réflexion, l'esprit qui partage en plaisir et souffrance, n'est là que pour conduire vos affaires dans le monde, exercer votre profession, calculer, etc. Il n'a pas d'autre utilité. Tôt le matin, sitôt après le réveil, il s'agit de la même expérience pour tous les êtres, il est éprouvé simplement « je suis » à l'intérieur de soi. L'être est là, spontanément. Ensuite, se produit l'observation de tout le reste. Être initialement le témoin de « je suis » est la condition préliminaire indispensable à toute observation. La première expérience du monde est la constatation « je suis ». Mais qui en est le témoin ? Il faut bien que quelque chose soit présent avant qu'apparaisse la première impression d'exister. Quelque chose qui est éternellement là, sans avoir besoin de se réveiller. C'est cela, l'éternel présent, témoin de l'apparition de cet état de veille. Le mystère de cette expérience du monde réside à ce niveau. Le secret ésotérique de la graine être se trouve également là. Ensuite, vous vous réveillez complètement et a lieu l'observation du réveil. Mais l'observation première est celle de ma propre présence, de mon existence. Ce réveil au sens de l'existence est un état temporaire car relevant des trois états, sommeil profond, veille et connaissance. Réunis, ces trois éléments constituent l'être. L'âme de l'univers est ma conscience, mon être, je suis, qui est appelé également maître. L'absolu est au-delà des attributs, au-delà du temps. L'absolu est seulement témoin des différentes activités de l'univers du maître. La personne n'est jamais le sujet. Vous pouvez voir une personne, mais vous n'êtes pas la personne. Vous êtes toujours le suprême qui apparaît à un point donné de l'espace et du temps en tant que témoin, spectateur, un pont entre la présence pure du suprême et la conscience multiple de l'individu. Dans les états de veille et de rêve, c'est la personne. Dans le sommeil profond et dans l'état d'unicité, c'est le soi. Au-delà de l'intense concentration de l'état d'unicité, s'étend la grande paix silencieuse du suprême. Mais, en fait, tout est un en l'essence et relatif en apparence. Vous avez besoin de mon corps pour qu'il vous parle. Je ne suis pas le corps et je n'en ai pas besoin. Je ne suis que le témoin. Je n'ai pas de forme qui me soit propre. Vous êtes tellement habitué à penser à vous comme des corps qui ont une conscience que vous ne pouvez tout simplement pas concevoir une conscience ayant des corps. Quand vous aurez réalisé que l'existence corporelle n'est qu'un état du mental, un mouvement dans la conscience, que l'océan de la conscience est infini et éternel, et que, quand vous êtes au contact de la conscience, vous n'êtes que le témoin, vous pourrez vous retirer complètement de la conscience. Je suis conscient et inconscient, à la fois conscient et inconscient, et ni l'un ni l'autre. De tout cela, je suis le témoin. Mais en réalité, il n'y a pas de témoin parce qu'il n'y a rien dont être le témoin. Je suis parfaitement vide de toute formation mentale, vide de mental. Et cependant, pleinement conscient. C'est ce que j'essaie d'expliquer en disant que je suis au-delà du mental. Dès l'instant où une forme est animée par la vie, La conscience apparaît par réflexion de la présence dans la matière. Comme la glace devient eau et l'eau vapeur, s'évaporant dans l'air et disparaissant dans l'espace, le corps se dissout dans la présence pure, puis dans le pur être qui transcende toute existence et toute non-existence. L'absolu, au-delà de l'espace, est pur être. L'éther de la conscience est présence pure. La conscience, c'est présence, conscience. Je vois que dans l'océan de la pure conscience, à la surface de la conscience universelle, les vagues sans nombre du monde phénoménal se lèvent et se creusent sans commencement ni fin. En tant que conscience, elles sont toutes moi. En tant qu'événement, elles sont toutes miennes. Il y a une puissance mystérieuse qui veille sur elles. Cette puissance, c'est la pure conscience, soi. La réalisation de l'unité est au-delà du mental. Pour moi, rien n'existe en soi. Tout est le soi, tout est moi-même. Me voir en chacun et tous en moi, c'est assurément l'amour. Pour que la béatitude se manifeste, il faut qu'il y ait rencontre, contact, affirmation de l'unité dans la dualité. Vous devez travailler non pour vous ou pour les autres, mais pour le travail lui-même. Une chose digne d'être faite trouve en elle-même son but et sa justification. Faites du rien un moyen en vue d'autre chose. Ne liez pas. Dieu ne crée pas une chose pour en servir une autre. Chaque chose est faite pour elle-même. Elle n'influe pas sur les autres. Il y a un état au-delà de l'oubli et du non-oubli, c'est l'état naturel. Se souvenir, oublier, ce sont des états du mental, conditionnés par les pensées, par les mots. Prenez par exemple l'idée d'être né. On me dit que je suis né, je ne m'en souviens pas. On me dit que je mourrai, je ne l'attends pas. Vous me dites que j'ai oublié ou que je manque d'imagination. Mais plus simplement, je ne peux pas me rappeler ce qui n'est jamais arrivé ou m'attendre à ce qui est manifestement impossible. Des corps naissent, des corps meurent. Qu'est-ce pour moi? Des corps vont et viennent dans la conscience. Mais la conscience a ses racines en moi. Je suis la vie et le corps et le mental sont miens. L'univers, c'est une scène sur laquelle on joue un drame mondial. Ce qui importe, c'est la qualité de la représentation. Non ce que disent ou font les acteurs, mais la manière dont ils le disent ou le font. Dieu n'est pas seulement juste et bon, il est aussi beau. Il crée la beauté pour la joie qu'elle donne. Dieu ne recherche pas la beauté. Tout ce qu'il fait est beau. Dites-vous d'une fleur qu'elle s'efforce d'être belle? Être belle est dans sa nature. Pareillement, Dieu est la perfection même, et non un effort en vue de la perfection. Qu'est-ce qui est beau? Tout ce qui est perçu dans la joie est beau. La joie est l'essence de la beauté. La multiplicité et la diversité sans conflit, c'est la béatitude. Dans la pure conscience, il y a la lumière. Pour qu'il y ait de la chaleur, il faut un contact. Au-dessus de l'unité de l'être, il y a l'union de l'amour. L'amour est le sens et le but de la dualité. En réalité, vous n'êtes ni une chose, ni séparés. Vous êtes la possibilité infinie, l'inépuisable possibilité. Puisque vous existez, tout peut exister. L'univers n'est qu'une manifestation partielle de votre pouvoir sans limite de devenir. Le quatrième état de l'âme, l'état d'unicité, est l'état de pur témoin, de la conscience détachée, sans passion, inexprimée. Cet état est comme l'espace qui n'est pas affecté par ce qu'il contient. Les émotions du corps et du mental ne l'atteignent pas. Elles lui sont extérieures, là-bas, alors que le témoin est toujours ici. L'attention, la vigilance, la lucidité, la vivacité, la vitalité sont toutes des manifestations de votre intégrité, de votre unicité avec votre vraie nature. Il est dans la nature de l'harmonie de réconcilier et de neutraliser l'énergie et l'inertie, puis de reconstituer la personnalité en accord avec la vraie nature du soi. L'harmonie, la vraie essence de l'être, est le fidèle serviteur du soi, un serviteur perpétuellement attentif et obéissant. Ne sous-évaluez pas l'attention. Elle signifie intérêt et aussi amour. Pour faire, découvrir ou créer, il faut y mettre tout votre cœur, ce qui sous-entend l'attention. Toutes les bénédictions jaillissent d'elle. Quoi qu'il arrive, je demeure. Il y a à la racine de mon être, la pure conscience, un point d'intense lumière. La nature même de ce point est d'irradier et de créer des images dans l'espace et des événements dans le temps, sans effort, spontanément. Tant qu'il est simplement conscient, il n'y a pas de problème. Mais quand se manifeste le mental discriminant qui crée les distinctions, le plaisir et la souffrance naissent. Que vous soyez une personne est dû à l'illusion du temps et de l'espace. Vous vous imaginez en un point donné, occuper un volume donné. Votre personnalité est due à votre identification au corps. Vos pensées et vos sentiments existent dans la succession. Ils ont leur durée dans le temps et ils sont ce qui fait que, à cause de la mémoire, vous vous imaginez avoir une durée. En réalité, le temps et l'espace existent en vous. Ils n'existent pas en eux-mêmes. Le temps et l'espace sont les modalités de la perception, mais ce ne sont pas les seuls. Le temps et l'espace sont comme des mots écrits sur du papier. Le papier est le réel. Les mots ne sont que pure convention. Tant que nous nous imaginons être des personnes complètement séparées, nous ne pouvons pas saisir la réalité qui est essentiellement impersonnelle. Il nous faut d'abord nous connaître comme étant uniquement des témoins, des centres d'observation sans dimension ni durée, et ensuite réaliser cet océan de pure conscience qui est à la fois mental et matière, et au-delà des deux. L'harmonie et la beauté, la compréhension et l'affection sont toutes des expressions de la réalité. C'est la réalité agissante, l'impact de l'esprit sur la matière. Le témoin n'est pas une personne. L'existence ne se manifeste dans l'individu que lorsqu'il y a pour cela une assise, un organisme, un corps. Dans la personne, l'absolu se reflète comme conscience. La pure conscience devient conscience de soi quand il y a un soi. La conscience de soi est le témoin. Quand il n'y a pas de soi pour être le témoin, il n'y a pas non plus de témoin. Tout ceci est très simple. C'est la présence de la personne qui amène les complications. Voyez qu'il n'y a pas de personne constamment séparée en tant que telle. Et tout devient clair. Conscience, mental, matière sont la même réalité sous deux aspects, l'immuable et le changeant, et trois attributs qui sont l'inertie, l'énergie et l'harmonie. Le désir, c'est la dévotion. Consacrez-vous par tous les moyens au cœur réel, infini, éternel de l'être. Transformez le désir en amour. Le cœur cosmique bat sans arrêt. Je suis le témoin et je suis aussi ce cœur. La perfection absolue est ici et maintenant, et non dans un avenir plus ou moins lointain. Le secret se trouve dans l'action, ici et maintenant. C'est votre comportement qui vous aveugle à vos propres yeux. Rejetez tout ce que vous pensez être et agissez comme si vous étiez absolument parfait, quelle que soit l'idée que vous vous faites de la perfection. Tout ce qu'il vous faut, c'est du courage. Mais il est dans la nature de l'amour de s'exprimer, de s'affirmer, de surmonter les difficultés. Quand vous aurez compris que le monde est l'amour agissant, vous le regarderez d'une manière totalement différente. Mais il faut d'abord que votre attitude face à la souffrance change. La souffrance est avant tout un appel à votre attention, qui est elle-même un mouvement de l'amour. Plus que le bonheur, l'amour désire la croissance, l'élargissement et l'approfondissement de la conscience et de l'être. Tout ce qui y fait obstacle est une cause de douleur. Et l'amour n'esquive pas la douleur. Il ne faut pas que la vraie essence de l'être, l'harmonie universelle, l'énergie qui travaille en vue de la justice et d'un développement ordonné, soit contrariée. Quand elle rencontre des empêchements, elle se retourne contre elle-même et elle devient destructrice. Chaque fois que l'on refuse l'amour et qu'il est permis à la souffrance de s'étendre, la guerre devient inévitable. Notre indifférence à l'égard de la souffrance du voisin dépose la souffrance à notre porte. Ma grâce vous dit maintenant, regardez en vous-même. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Utilisez-le. Conduisez-vous de votre mieux. Faites ce que vous croyez devoir faire. N'ayez pas peur des erreurs. Vous pouvez toujours les corriger. Seules comptent les intentions. La forme que prennent les choses n'est pas en votre pouvoir. Mais les motivations de vos actes le sont. Le connu n'est qu'une forme. La connaissance n'est qu'un nom. Et le connaissant n'est qu'un état du mental. Le réel est au-delà. Vous n'êtes pas dans un corps. Il est en vous. Le mental est en vous. Il vous arrive. Ils sont là parce que vous les trouvez intéressants. Votre nature a une capacité infinie à jouir. Elle est pleine d'enthousiasme et d'affection. Elle projette son rayonnement sur ce qui vient dans le champ de la conscience et rien n'en est exclu. Elle ne connaît ni le mal, ni la laideur. Elle espère, elle croit, elle aime. Vous ne savez combien vous perdez à ne pas connaître votre vrai soi. Vous n'êtes ni le corps, ni le mental, ni le combustible, ni le feu. Ils apparaissent et disparaissent selon leurs propres lois. Ce que vous êtes, votre vrai soi, vous l'aimez. Quoi que vous fassiez, vous le faites pour votre bonheur. L'aimer, le connaître, le chérir, c'est votre instinct fondamental. Vous vous êtes aimé depuis des temps immémoriaux, mais jamais avec sagesse. Avec sagesse, usez de votre corps et de votre mental au service du soi. C'est tout. Soyez sincère envers lui. Aimez-le d'un amour absolu. Ne feignez pas d'aimer les autres comme vous-même. À moins que vous n'ayez réalisé qu'ils sont un avec vous, vous ne pouvez les aimer. Ne feignez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Ne refusez pas d'être ce que vous êtes. Votre amour des autres est le produit de la connaissance de soi, et non sa cause. Il n'y a pas de vertu véritable sans réalisation de soi. Quand vous savez, au-delà de toute incertitude, que la même vie coule dans tout ce qui existe et que vous êtes cette vie, alors vous aimez tout, naturellement, spontanément. Quand vous aurez réalisé la plénitude et la profondeur de votre amour de vous, vous saurez que chaque être vivant et l'univers entier sont inclus dans votre affection. Votre recherche même vous l'a fait manquer. Rejetez l'opinion que vous ne l'avez pas trouvée. Et simplement, laissez-la venir au centre de votre perception directe, ici et maintenant, en supprimant tout ce qui participe du mental. Il reste la vacuité. Il reste l'éveil. Il reste la pure lumière de l'être conscient. Par-delà l'espace et le temps, il y a l'ici et le maintenant de la réalité. Le suprême est au-delà de toutes les distinctions, et le terme réel ne peut s'y appliquer, car en ce suprême, tout est réel. Il n'a donc pas besoin d'étiquette. Il est la source même de la réalité. Il communique la réalité à tout ce qu'il touche. On ne peut tout simplement pas le comprendre au travers des mots. Même l'expérience directe, aussi sublime soit-elle, ne fait qu'en témoigner, rien de plus. L'esprit universel fait et défait toute chose. Le suprême communique la réalité à tout ce qui naît à l'existence. Dire qu'il est l'amour universel serait la meilleure approche que nous offrent les mots. Comme l'amour, il rend tout réel, beau et désirable. Il y a deux voies pour l'atteindre. Vous pouvez vous consacrer de tout votre cœur et de toute votre âme à la découverte de vous-même, ou vous pouvez accepter mes paroles avec confiance et agir en conséquence. En d'autres termes, vous devenez soit totalement centré sur vous-même, soit totalement détaché de vous-même. C'est le mot « totalement » qui est important. Pour atteindre le suprême, il faut être extrémiste. Il ne peut pas y avoir d'expérience en dehors de la conscience. Mais il existe cependant l'expérience d'être, simplement. Il y a, au-delà de la conscience, un état qui n'est pas inconscient. Certains le nomment supraconscience, pure conscience ou conscience suprême. Il est pur éveil, libéré du complexe sujet-objet. La conscience est intermittente, pleine de trous. Nous éprouvons malgré tout le sentiment de la continuité de notre identité. À quoi serait dû ce sentiment d'identité si ce n'est à quelque chose qui se situerait au-delà de la conscience? Je me répète, jamais je n'ai été, je ne suis pas et jamais je ne serai un corps. Pour moi, c'est un fait. Moi aussi, j'ai vécu dans l'illusion d'être né, mais mon maître m'a montré que la naissance et la mort ne sont que de pures idées. La naissance est simplement l'idée « j'ai un corps ». La mort est l'idée « j'ai perdu mon corps ». Maintenant, alors que je sais que je ne suis pas un corps, quelle différence cela fait-il que le corps soit là ou n'y soit pas ? L'association corps-mental est comme une chambre, elle est là, mais je n'y vis pas tout le temps. Contentez-vous de ce dont vous êtes sûr. Et la seule chose dont vous puissiez être assuré, c'est « je suis ». Demeurez en « je suis » et rejetez tout le reste. C'est le lien. La lumière de la conscience est à la fois le créateur et le créé, celui qui perçoit et l'expérience, le corps et l'identité incarnée. Le corps existe dans le temps et dans l'espace, transitoire et limité, alors que l'hôte du corps est hors du temps et de l'espace. Il est éternel et pénètre tout. Il y a une puissance universelle qui contrôle le corps et qui en est responsable. « Je suis tout ce qui est » est une expérience. Le particulier et l'universel sont inséparables. Ils sont les deux aspects de ce qui n'a pas de nom, vu du dedans et du dehors. Le témoin unique se reflète dans les corps innombrables, en tant que je suis. Le Créateur est une personne dont le corps est le monde. Celui qui est sans nom est au-delà de tous les dieux. Tout est un. Et tout est fait pour la seule source et le but unique de chaque désir, celui que nous connaissons tous comme je suis. Imaginez, vous pénétrez dans une pièce obscure. Vous ne voyez rien. Vous pouvez toucher, mais vous ne pouvez voir aucune couleur, aucun contour. La fenêtre s'ouvre et la pièce est inondée de lumière. Les couleurs et les formes se mettent à exister. La fenêtre, c'est ce qui donne la lumière. Mais ce n'en est pas la source. Le soleil en est la source. De même, la matière est la pièce obscure. La fenêtre, c'est la conscience, inondant la matière de perceptions et de sensations. Le soleil, c'est le suprême, qui est à la fois la source de la matière et de la lumière. La fenêtre peut être ouverte ou fermée, le soleil brille toujours. Toute la différence est pour la pièce, pas pour le soleil. L'être non identifié reste. Il est l'opposé de tout ce à quoi vous pouvez vous référer. Il se situe également entre et au-delà de tous les contraires. Il n'est ni conscience, ni inconscience, ni à mi-chemin, ni au-delà des deux. Il est en lui-même, sans relation avec quoi que ce soit qu'on puisse nommer expérience ou absence d'expérience. Mais quand je pense à lui, il devient une expérience. Quand vous ne demandez rien, ni au monde, ni à Dieu, quand vous ne désirez rien, ne cherchez rien, alors l'état suprême vient à vous sans que vous l'ayez invité ni attendu. Vous savez que vous êtes. Ne vous préoccupez pas des noms, soyez simplement. Chaque nom, chaque forme que vous vous attribuez obscurcissent votre nature naturelle. Allez au-delà. Retournez à la source, vers le soi qui est toujours le même, quoi qu'il arrive. En réalité, le monde est perpétuellement créé et recréé par vous. Voyez que toute chose émane de la lumière qui est la source même de votre être. Vous découvrirez que cette lumière est amour et infinie énergie. La réalité est essentiellement impersonnelle. Il nous faut nous connaître d'abord comme étant uniquement des témoins, des centres d'observation sans dimension ni durée. Et ensuite, réaliser cet océan de pure conscience éveillée qui est à la fois mental et matière et au-delà des deux. Toute connaissance coule de vous comme toute existence et toute joie. Réalisez que vous êtes la source éternelle et acceptez tout comme vôtre. Une telle acceptation, c'est l'amour. La présence du Maître sous forme physique est la présence du Je suis. Il est l'absolu avec attributs dans la manifestation. Le contact intérieur avec Je suis réside dans le guide intérieur de l'être qui est la suprême réalité. L'énergie vient la première. Toute chose est une forme d'énergie. C'est dans les états de veille que la conscience est la plus différenciée. Elle l'est moins dans les rêves et moins encore dans le sommeil. Elle est homogène dans le quatrième état d'unicité. Au-delà se trouve l'inexprimable et monolithique réalité, la demeure du sage réalisé. Maharaja, je me suis coupé la main, elle est guérie. Quel pouvoir la guérit ? Le pouvoir de la vie. Maharaja, quel est ce pouvoir ? C'est la conscience. Tout est conscience. La conscience même est source de tout. Non, il ne peut y avoir de vie sans conscience. Pas plus qu'il ne peut y avoir conscience sans vie. Elles ne sont qu'une, mais en réalité, seule l'ultime est. Le monde et le mental sont des états d'existence. Le suprême n'est pas un état. Il pénètre tous les états, mais ce n'est pas un autre état. Il est totalement non conditionné, indépendant, complet par lui-même, au-delà de l'espace et du temps, du mental et de la matière. Il ne laisse pas de traces. Il n'y a rien à quoi on puisse le reconnaître. Il doit être vu directement en renonçant à chercher des signes ou des voies d'accès. Quand vous avez renoncé à tous les noms et à toutes les formes, le réel est avec vous. Vous n'avez pas besoin de chercher. La pluralité et la diversité sont des jeux du seul mental. La réalité est une. Vous n'êtes même pas un être humain. Vous êtes seulement un point de conscience coextensif au temps et à l'espace, et au-delà des deux. La cause ultime, elle-même sans cause. Si vous me demandez « Qui êtes-vous ?», je vous répondrai « Rien en particulier, toutefois, je suis. » Que signifie être universel, non en tant que concept, mais comme mode de vie ? Ne pas séparer, ne pas opposer, comprendre et aimer tout ce qui entre en contact avec vous, c'est vivre l'universalité. Être capable de dire vraiment « Je suis le monde est moi, je suis chez moi dans le monde est à moi, chaque existence est mon existence, chaque conscience est ma conscience, chaque chagrin est mon chagrin, et chaque joie est la mienne. Voilà la vie universelle. » Le désir d'être est le plus fort de tous les désirs, et il n'aboutira que dans la réalisation de votre vraie nature. Vous ne pouvez pas connaître la perfection, mais seulement l'imperfection. Pour qu'il puisse y avoir connaissance, il faut qu'il y ait séparation et disharmonie. Vous pouvez savoir ce que vous n'êtes pas, mais vous ne pouvez pas connaître votre être réel. Ce que vous êtes, vous ne pouvez que l'être. Toute cette approche se fait par la compréhension qui consiste à voir le faux comme tel. Mais pour comprendre, il faut que l'observation se fasse de l'extérieur. Ce qui est potentiel n'est pas connaissable. Seul l'actuel peut être connu. Le réel est simple, ouvert, clair, aimable, beau et joyeux. Il est totalement libre de contradictions. Il est à jamais neuf, frais, perpétuellement créateur. Dans la réalité, il n'y a que perception. Celui qui perçoit et le perçu sont conceptuels. Le fait de percevoir est réel. L'absolu est le lieu de naissance du percevoir. Il rend la perception possible. Mais trop d'analyse ne vous mènera nulle part. Il y a en vous le noyau de l'être qui est au-delà de l'analyse et qui est au-delà du mental. Vous ne pouvez le connaître que dans l'action. Exprimez-le dans votre vie de tous les jours et sa lumière brillera toujours plus fort. La fonction légitime du mental est de vous dire ce que vous n'êtes pas. Mais si vous voulez une connaissance positive, vous devez aller au-delà du mental. Seule la préparation est progressive. Le changement lui-même est soudain et total. Le changement progressif ne vous amène pas à un nouveau plan de l'existence consciente. Il vous faut du courage pour lâcher prise. La conviction entière engendre à la fois le désir et le courage. Et la méditation est l'art de parvenir à la foi par la compréhension. Dans la méditation, vous considérez l'enseignement reçu sous tous ses aspects et souvent jusqu'à ce que naisse de la lucidité la confiance et avec la confiance l'action. La conviction et l'action sont inséparables. L'énergie vient de l'amour. Vous devez aimer pour agir, quelle que soit la forme et l'objet de votre amour. Remontez aux sources du monde et vous découvrirez qu'avant que le monde ne fût, vous existiez et que lorsque le monde ne sera plus, vous demeurerez. Trouvez votre être intemporel et vos actes en témoigneront. Qu'avez-vous donc d'autre à faire? C'est certainement la tâche la plus urgente. Vous ne pouvez pas vous considérer comme indépendant de toutes les choses si vous ne renoncez pas à tout et si vous ne restez pas sans soutien et sans vous définir. Une fois que vous vous connaissez, ce que vous faites est indifférent. Mais pour réaliser votre indépendance, vous devez l'éprouver en lâchant la prise que vous avez sur tout ce dont vous êtes dépendant. L'homme qui s'est réalisé vit au plan de l'absolu. Sa sagesse, son amour et son courage sont entiers. Chez lui, rien n'est relatif. Il doit donc se mettre lui-même à l'épreuve par des tests plus rigoureux, des essais plus exigeants. Celui qui se met à l'épreuve et ce qui est mis à l'épreuve et le cadre de l'épreuve sont tous les trois au-dedans. C'est un drame intérieur où nul ne peut être parti. Ce qui vous vient à chaque instant, sans que vous l'ayez demandé, vous vient de Dieu et vous aidera certainement si vous en faites un plein usage. Acceptez la vie comme elle vient et vous découvrirez qu'elle est une bénédiction. Il y a dans l'univers un pouvoir qui travaille à l'éveil et à la libération. Nous l'appelons béatitude éternelle, toujours propice et bienveillante. Cette force est perpétuellement présente au cœur de l'humain. Elle est le facteur d'unification. L'unité libère, la liberté unit. Fondamentalement, rien n'est mien, rien n'est vôtre. Soyez dans l'unité avec vous-même et vous le serez avec tout. Vous serez chez vous dans tout l'univers. Insistez, résistez, cela fait partie de la volonté d'exister. Enlevez cette volonté, que reste-t-il? L'existence, comme la non-existence, sont relatives à quelque chose situé dans l'espace et dans le temps, ici et maintenant. Le maître et la réalité intérieure de l'être humain ne font véritablement qu'un, et ils travaillent en vue de la même fin, la rédemption et le salut de l'esprit. Ils ne peuvent pas échouer. La conscience n'est pas la totalité de l'être. Il y a d'autres plans sur lesquels l'être humain est beaucoup plus coopératif. Le maître est chez lui sur tous les plans, et son énergie et sa patience sont inépuisables. Seul ce qui existait avant l'apparition de ce corps avec conscience, c'est-à-dire l'absolu, le présent à jamais, est votre véritable identité. C'est cela que nous sommes tous réellement. C'est cela la réalité. Elle est ici et maintenant. En fait, c'est cela votre état originel, votre état ou nature véritable, un état de complétude, de divinité, de présence absolue et d'absence relative. La conscience ou le sens d'être ou l'être est une réflexion de cet état. Mais la réflexion du soleil n'est pas le soleil. Cette présence conscience, voilà ce que vous êtes, et non le corps qui ne constitue qu'une résidence de la conscience dans sa manifestation. Lorsque le corps meurt, la conscience est libérée du corps et vous n'êtes même plus présence consciente car alors il n'y a plus aucune présence relative. Vous êtes alors dans la conscience absolue originelle. Absence relative signifie présence absolue, sans conscience d'être présent. La réponse ultime est ceci. Rien n'existe. Tout n'est qu'apparence transitoire dans le champ de la conscience universelle. La continuité, en tant que nom et forme, n'est qu'une élaboration mentale aisée à dissiper. Un sage réalisé comprend une situation dans sa totalité et il sait immédiatement ce qu'il faut faire. c'est tout. Le reste arrive de lui-même et dans une grande mesure inconsciemment. L'identité du sage réalisé avec tout ce qui existe est si complète que dès qu'il répond à l'univers, l'univers lui répond également. Il a une assurance absolue que lorsqu'une situation a été reconnue, les événements se passeront de la façon la plus adéquate. L'homme ordinaire est personnellement concerné. Il calcule ses risques et ses chances, alors que le sage réalisé reste détaché, certain que tout se produira comme il se doit. Ce qui arrive n'a pas beaucoup d'importance, parce que le retour à l'équilibre et à l'harmonie est en fin de compte inévitable. Le cœur des choses est en paix. Quand vous avez affaire au concret, la discontinuité est la loi. Il n'est pas possible d'en éprouver la continuité, car la continuité n'a pas de frontières. La conscience implique altération, modification sur modification. Quand une chose ou un état touche à sa fin, un autre commence. Ce qui n'a pas de limite ne peut pas être éprouvé au sens courant du mot. On ne peut que l'être sans le connaître. Mais on peut savoir ce qu'il n'est pas. Ce n'est définitivement pas la totalité de la conscience qui bouge perpétuellement. Existe-t-il un monde en dehors de votre connaissance? Pouvez-vous aller au-delà de ce que vous connaissez? Vous pouvez admettre comme postulat un monde qui serait au-delà du mental, mais il restera un concept non démontré et indémontrable. Votre preuve, c'est votre expérience, et elle n'est valable que pour vous. Qui d'autre pourrait avoir votre expérience quand autrui n'est réel que dans la mesure où il apparaît dans votre expérience? En tant que personne, vous êtes seul. Mais dans votre être réel, vous êtes le tout. Ma seule possession est de savoir que je suis l'incorporation des 5 éléments. La science de ces éléments est la manifestation de la présence « je suis ». Cette connaissance est en moi et la suprême réalité sans attribut est moi. Le monde est en soi un miracle. Je suis au-delà du miracle. Je suis absolument normal. Chez moi, tout arrive comme il se doit. Je ne contrarie pas la création. De quelle utilité me seraient de petits miracles quand le plus grand d'entre eux est toujours en train de se produire? Quoi que vous voyez, c'est toujours votre être propre que vous voyez. Allez toujours plus profond en vous-même. Il n'y a ni violence ni non-violence dans la découverte de soi. La destruction du faux est non-violence. Vous ne pouvez pas être conscient de ce qui ne change pas. Toute conscience est conscience du changement. Mais la perception du changement ne nécessitait-elle pas un arrière-plan immuable? Il y a une différence fondamentale qu'on peut observer à tout instant entre ce dont on se souvient et ce qui est actuel. En aucun point du temps, l'actuel n'est le souvenir. Entre les deux, il y a une différence de nature et pas seulement d'intensité. L'actuel est manifestement actuel. Aucun effort de volonté ou d'imagination ne vous permettra de les permuter. Maintenant, dites-moi ce qui donne cette qualité unique à l'actuel. Il y a un instant, le souvenir était actuel. Dans un instant, l'actuel deviendra souvenir. Qu'est-ce qui fait la singularité de l'actuel? C'est évidemment votre sensation d'être présent. Dans la mémoire, comme dans l'anticipation, on ressent clairement que ce sont des états mentaux que l'on observe. Alors que dans l'actuel, nous avons avant tout la sensation d'être présent et conscient. Cette sensation d'ici et maintenant, vous la portez toujours et partout en vous. Ce qui veut dire que vous êtes indépendant du temps et de l'espace, que l'espace et le temps sont en vous et non pas vous en eux. C'est votre auto-identification au corps, qui bien sûr est limitée dans le temps et dans l'espace, qui vous donne ce sentiment de finitude. En réalité, vous êtes infini et éternel. Gardez présent dans le mental votre but qui est la liberté jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes déjà libre, que la liberté n'est pas quelque chose situé dans un lointain avenir et qu'il faut gagner au prix d'efforts pénibles, mais qui est vôtre de toute éternité pour que vous en fassiez usage. La libération n'est pas une acquisition, mais une question de courage. Le courage de croire que vous êtes déjà libre et celui d'agir en conséquence. Tout ce qui arrive dans l'univers vous arrive à vous, le témoin silencieux. D'un autre côté, tout ce qui est fait se fait par vous, l'énergie universelle et inépuisable. Ce que j'enseigne est la voie antique et simple de la libération par la compréhension. Comprenez votre mental et la prise qu'il a sur vous se cassera net. Le mental ne comprend pas, c'est sa nature même. Quel que soit le nom que vous lui donniez, la compréhension juste est le seul remède, le premier, mais aussi le dernier, parce qu'il traite le mental tel qu'il est. Rien de ce que vous faites ne vous changera, parce que vous n'avez pas besoin de changer. Vous pouvez modifier votre mental ou votre corps, mais ce qui se modifie est toujours quelque chose d'extérieur à vous-même et non pas vous-même. Pourquoi même se soucier de changer ? Réalisez une fois pour toutes que ni votre corps, ni votre mental, ni même votre conscience ne sont vous-même. Et demeurez seul dans votre véritable nature, au-delà de la conscience et de l'inconscience. Aucun effort ne vous y amènera. Seule la limpidité de votre compréhension le peut. Il vous suffit de cerner votre incompréhension et de la rejeter. Il n'y a rien à chercher ni à trouver, car il n'y a rien de perdu. Relâchez-vous. Regardez le « je suis ». La réalité est juste derrière. Soyez tranquille, soyez silencieux. Elle émergera, ou plutôt, elle vous accueillera en elle. De mon point de vue, l'amour égale qualité d'être. L'être est amour. Ce n'est qu'à l'apparition du « je suis » que naît l'amour. L'amour est la qualité de l'univers. L'absolu ne sait pas qu'il est. Il ne se connaît pas lui-même. Les actions se produisent à travers vous. L'univers se déploie de la même façon que vous recréez le monde à votre réveil. Le mental, avec ses 5 organes de perception, ses 5 organes d'action, ses 5 véhicules de la conscience, nous apparaît comme mémoire, pensée, raison et identité. Il ne peut y avoir conscience sans vie. Elles ne sont qu'une. Mais en réalité, seul l'ultime est. Le reste n'est que matière de nom et de forme. Tant que vous vous attacherez à l'opinion que seul ce qui a un nom et une forme existe, le suprême vous apparaîtra comme non existant. Quand vous comprendrez que les noms et les formes ne sont que des coquilles vides, sans aucun contenu, et que ce qui est réel est sans nom ni forme, pure énergie de vie, lumière de conscience, vous serez en paix, immergé dans le profond silence de la réalité. Il y a la nature, l'océan de l'existence, l'espace physique avec lequel nous sommes en contact par l'intermédiaire de nos sens. Il y a la sphère de la conscience, l'espace mental du temps, de la perception et de la cognition. Il y a la réalité hors du temps et de l'espace, sans mental, non différencié, la potentialité infinie, la source et l'origine, la substance et l'essence, à la fois matière et conscience, et les transcendants, toutes les deux. On ne peut pas l'apercevoir, mais on peut en faire l'expérience comme vision éternelle du témoin, la perception du spectateur, l'origine et la fin de toute manifestation, la racine du temps et de l'espace, la cause première de toutes les séries cause-effet. Il n'y a aucune différence entre le témoin et l'absolu, comme entre la lumière et la lumière du jour. L'univers est baigné d'une lumière que nous ne percevons pas. Mais cette même lumière, vous la voyez comme lumière du jour. Et que révèle cette lumière ? C'est la personne. Vous imaginez que ce sont des états distincts et séparés. Ce n'est pas le cas. Ils sont la même conscience, au repos ou en mouvement. Chaque état étant conscient de l'autre. Dans la conscience, l'homme connaît Dieu et Dieu connaît l'homme. Dans la conscience, l'homme donne forme au monde et le monde donne forme à l'homme. La conscience est le lien, le pont entre les extrêmes. C'est le facteur d'équilibre et d'unification dans toute expérience. La totalité du perçu est ce que vous appelez la matière. La totalité de ceux qui perçoivent est ce qu'on appelle le mental universel. L'identité des deux, qui se manifeste comme perceptibilité et perception, harmonie et intelligence, objet d'amour et amour, est en perpétuelle affirmation de soi. L'absolu précède le temps. Au début est la présence, l'éveil. Un faisceau de souvenirs et d'habitudes mentales fixe l'attention. La conscience se trouve localisée et soudainement naît un individu. Supprimez la lumière de la conscience, allez dormir ou évanouissez-vous. L'individu disparaît. La personne scintille. La conscience englobe l'espace et le temps. L'absolu est. La vie devient alors ce qu'elle est destinée à être, la pure radiation d'une source inépuisable. Dans cette lumière, le monde apparaît vaguement comme dans un rêve. L'éveil vient du suprême et pénètre le soi interne. Le prétendu soi externe est la partie de nous-mêmes dont nous ne sommes pas totalement conscients. Car nous pouvons être conscients, car tout être vivant est conscient, mais nous ne sommes pas éveillés. Ce qui est inclus dans l'éveil devient l'intérieur et participe de l'intérieur. On peut l'exprimer autrement. Le corps délimite le soi extérieur et la conscience le soi intérieur. Dans l'éveil, nous sommes au contact du suprême. Ce qui vous fait penser que vous êtes un être humain n'est pas humain. Ce n'est qu'un point sans dimension de la conscience, un rien conscient. Tout ce que vous pouvez dire à votre sujet, c'est « je suis ». Vous êtes être, conscience, béatitude pure. Réaliser cela, c'est la fin de toute quête. La personne n'est que le résultat d'un malentendu. En réalité, il n'y a rien de tel. Les sensations, les pensées, les actes défilent devant l'observateur dans une succession sans fin qui laisse des traces dans le mental et donne une illusion de continuité. Un reflet de l'observateur dans le mental crée la conscience, la sensation du jeu et la personne acquiert une existence apparemment indépendante. En réalité, il n'y a pas de personne, seulement l'observateur qui s'identifie au jeu et au mien. Le maître dit à l'observateur : « Vous n'êtes pas ceci, rien de vous n'est dans ceci, sauf le petit point du je suis qui est le pont entre l'observateur et son rêve. Je suis ceci, je suis cela, c'est le rêve. Alors que le pur je suis a sur lui l'empreinte de la réalité. Vous avez goûté à beaucoup de choses. Toutes ont été réduites à rien. Seule la sensation je suis a persisté, inchangée. Parmi ce qui change, demeurez dans l'immuable, jusqu'à ce que vous soyez capable d'aller au-delà. Regardez. Mon pouce touche mon majeur. Tous les deux touchent et sont touchés. Quand mon attention se porte sur mon pouce, il est celui qui sent, et le majeur est le soi. Changez le foyer de l'attention, la relation s'inverse. En quelque sorte, je découvre qu'en changeant le foyer de l'attention, je deviens la chose même que je regarde et je ressens le type même de conscience qu'elle possède. Je deviens le témoin intérieur de la chose. Cette capacité de pénétrer d'autres foyers de conscience, je l'appelle amour, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'amour dit « je suis tout ». La sagesse dit « je ne suis rien ». Ma vie coule librement entre les deux. Puisqu'à tous les points de l'espace et du temps, je peux être aussi bien le sujet que l'objet de l'expérience. J'exprime cette possibilité en disant que je suis à la fois les deux, ni l'un ni l'autre et au-delà des deux. Comme je vous l'ai déjà dit, mon maître m'a montré ma vraie nature et la vraie nature du monde. Ayant réalisé que je suis un avec le monde et que cependant je suis au-delà, je fus libérée des désirs et de la peur. Je ne me suis pas persuadée par la raison que je devais être libre. Je me suis retrouvée libre de façon inattendue, sans le moindre effort. Depuis, cette libération du désir et de la peur demeura en moi. J'ai remarqué d'autres choses. Je n'avais pas besoin de faire d'effort. L'acte suivait la pensée, sans délai, sans résistance. J'ai constaté aussi que mes pensées s'achevaient d'elles-mêmes, que les choses prenaient leur place aisément et correctement. La principale transformation s'était produite dans le mental. Il devint immobile et silencieux, répondant immédiatement mais ne perpétuant pas la réponse. La spontanéité devint un mode de vie. Le réel devint naturel et le naturel devint réel. Et par-dessus tout, il y eut l'affection. L'amour infini, sombre et tranquille, qui rayonne dans toutes les directions. L'amour qui embrasse tout, rend tout intéressant et beau, propice et chargé de sens. L'essence de la sainteté est l'acceptation totale de l'instant présent. L'harmonie avec les choses telles qu'elles arrivent. Un saint ne désire pas que les choses soient autres que ce qu'elles sont. Il sait que, compte tenu de tous les facteurs, elles sont inévitables. Il est en harmonie avec l'inévitable. Il n'en souffre donc pas. Il peut connaître la douleur, mais elle ne le brise pas. S'il le peut, il fera ce qui est nécessaire à la restauration de l'équilibre ou il laissera les choses suivre leur cours. Le besoin que vous ressentez de vous trouver vous-même est le signe que vous êtes prêt. L'impulsion vient toujours de l'intérieur. À moins que votre heure ne soit venue, vous n'aurez ni le désir, ni la force d'entreprendre de tout votre cœur cette auto-investigation. Considérez cette question du point de vue de la conscience éveillée. Une conscience plus large et plus profonde est plus élevée. Tout ce qui vit vise à protéger, perpétuer, développer la conscience. C'est là la seule signification, le seul but de la vie. Quand plus de gens parviendront à la connaissance de leur nature réelle, leur influence, bien que subtile, prévaudra et le climat émotionnel du monde en sera tempéré. Les peuples suivent leur chef. Et quand parmi ceux-ci en apparaîtront de grands par le cœur et par l'esprit, totalement libérés de la recherche égoïste, leur impact sera suffisant pour rendre impossible les grossièretés et les crimes de l'époque actuelle. Un nouvel âge d'or peut s'ouvrir, qui durera un temps, pour succomber ensuite à sa propre perfection. Car le reflux commence toujours quand la marée est au plus haut. La perfection éternelle existe, mais elle inclut toutes les imperfections. C'est la perfection de notre nature propre qui rend chaque chose possible, perceptible, intéressante. Elle ne connaît pas la souffrance, parce qu'elle n'a ni sympathie ni antipathie, qu'elle n'accepte ni ne rejette. La création et la destruction sont les deux pôles entre lesquels elle tisse son dessein toujours changeant. Libérez-vous des prédilections et des préférences, et le mental, avec son fardeau d'affliction, ne sera plus. Quand vous allez vers eux, chargé de vos désirs et de vos peurs, vous ne faites qu'ajouter à leur affliction. Libérez-vous d'abord vous-même de la souffrance, puis espérez être en aide, en mesure d'aider les autres. Vous n'avez même pas à espérer. Alors, votre existence en soi sera l'aide la plus grande qu'un être humain puisse apporter à ses frères humains. L'univers objectif possède une structure. Il est ordonné et beau. Personne ne peut le nier. Mais les structures, les plans, les cadres impliquent le contraire, la force. Mon monde est absolument libre, tout en lui est autodéterminé. C'est pourquoi je persiste à dire que tout arrive de soi-même. Dans mon monde aussi, il y a de l'ordre. Mais l'ordre ne lui est pas imposé de l'extérieur. L'ordre se manifeste spontanément et immédiatement parce qu'il est intemporel. La perfection n'est pas dans le futur, elle est maintenant. Mon monde influence votre monde en un seul point, celui du maintenant. Il lui donne une existence momentanée, une sensation fugitive de réalité. Dans la pleine conscience, là le contact s'établit. Cela demande une attention dont sont absents l'effort et l'égoïsme. La vie devient alors ce qu'elle est destinée à être, la pure radiation d'une source inépuisable. Dans cette lumière, le monde apparaît vaguement comme dans un rêve. Tant qu'il dure, le rêve a une existence temporaire. C'est le désir que vous avez de vous y accrocher qui crée le problème. Laissez-le partir. Cessez d'imaginer que le rêve est vôtre. Laissez le rêve se dérouler jusqu'à sa conclusion naturelle. Vous ne pouvez l'aider, mais vous pouvez voir le rêve comme tel, lui refuser l'empreinte de la réalité. Maharaja, je suis là, assis devant vous. Je rêve et vous me regardez. Vous parlez dans mon rêve. Quel lien y a-t-il entre nous ? Le lien, c'est mon intention de vous réveiller. Mon cœur vous veut éveiller. Je vous vois souffrir dans votre rêve et je sais que je dois vous éveiller pour que cesse votre détresse. Quand vous considérerez votre rêve comme un rêve, vous vous éveillerez. Mais votre rêve même ne m'intéresse pas. Il me suffit de savoir que vous devez vous réveiller. Il n'est pas nécessaire que vous apportiez un dénouement à votre rêve ou que vous le rendiez noble, heureux ou beau. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de réaliser que vous rêvez. Cessez d'imaginer, cessez de croire. Voyez les contradictions, les incongruités, la fausseté, la misère de l'état humain et la nécessité de le dépasser. Dans l'immensité de l'espace flotte un minuscule atome de conscience et en lui, l'univers entier est contenu. Dans le rêve, vous aimez certaines choses, d'autres non. À l'éveil, vous découvrez que vous êtes l'amour lui-même qui embrasse tout. L'amour venant de la personne, si intense et si sincère soit-il, attache inévitablement. L'amour dans la liberté, c'est l'amour du tout. Quand vous êtes l'amour, vous êtes au-delà du temps, du nombre. En aimant l'un d'entre eux, vous les aimez tous. En les aimant tous, vous aimez chacun. L'un et le tout ne sont pas exclusifs. Si vous voulez atteindre la réalité, il faut vous libérer de toute référence, de toute culture, de tout système de pensée et de sentir. Il faut même rejeter l'idée que je suis un homme, je suis une femme, ou même je suis un être humain. L'océan de la vie contient tout, pas seulement les humains. Aussi, abandonnez en premier lieu toute auto-identification. Arrêtez de penser que vous êtes comme ceci ou comme cela, tel ou tel que vous êtes ceci ou cela. Renoncez à tout intérêt personnel. Ne vous souciez pas de votre bien-être matériel ou spirituel. Abandonnez tout désir, grossier ou subtil. Cessez de penser à un accomplissement quel qu'il soit. Ici et maintenant, vous êtes complet. Vous n'avez absolument besoin de rien. Cela ne veut pas dire que vous devez être sans cervelle et téméraire, imprévoyant ou indifférent. Seulement, l'anxiété fondamentale pour soi-même doit disparaître. Vous avez besoin de nourriture, de vêtements, d'un abri. Mais cela ne vous créera pas de problème tant que vous ne confondrez pas besoin et avidité. Vivez en harmonie avec les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'on les imagine. Ce qui vous fait penser que vous êtes un être humain n'est pas humain. Ce n'est qu'un point sans dimension de la conscience, un rien conscient. Tout ce que vous pouvez dire à votre sujet, c'est « je suis ». Vous êtes être, conscience, béatitude pure. Réalisez cela, c'est la fin de toute requête. Vous n'êtes même pas un être humain. Vous êtes seulement un point de conscience coextensif au temps et à l'espace et au-delà des deux. La cause ultime, elle-même sans cause. Si vous me demandez qui êtes-vous, je vous répondrai rien en particulier. Toutefois, je suis. Cependant, la conscience individuelle ou universelle n'est pas ma vraie demeure. Je ne suis pas en elle, elle n'est pas mienne, il n'y a pas de moi en elle. Je suis au-delà. Bien qu'il ne soit pas aisé d'expliquer comment on peut être à la fois ni conscient ni inconscient, mais simplement au-delà. Je ne peux pas dire que je suis en Dieu ou que je suis Dieu. Dieu est la lumière et l'amour universel, le témoin universel. Je suis au-delà même de l'universel. Si vous pouviez éprouver pleinement la vacuité intérieure, l'explosion dans la réalité serait proche. Naturellement, quand il y a un abandon total, un renoncement complet à toute inquiétude à l'égard de son propre passé, de son présent et de son avenir, à l'égard de sa sécurité physique et spirituelle et de sa position sociale, on naît à une nouvelle vie pleine d'amour et de beauté. Alors, le maître n'a plus d'importance, car le disciple a brisé la coquille de l'autodéfense. L'abandon de soi total est par lui-même libération. Dans l'auto-réalisation, il n'y a pas de palier. Ce n'est pas quelque chose de graduel. Cela arrive soudainement et c'est irréversible. Vous passez dans une nouvelle dimension d'où les anciennes sont vues comme de pures abstractions. Comme au lever du soleil, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Dans la réalisation, vous voyez chaque chose telle qu'elle est. Vous avez laissé derrière vous le monde de l'illusion. L'éveil est dynamique. L'amour est existant. L'éveil, c'est l'amour en action. Le mental peut par lui-même actualiser de nombreuses possibilités. Mais à moins qu'il ne soit inspiré par l'amour, cela reste sans valeur. L'amour précède la création. Sans l'amour, il n'y a que le chaos. Maintenant, tournez-vous vers l'intérieur en vous-même, dans un état que vous pourriez comparer au rêve éveillé, état dans lequel vous êtes présent à vous-même, mais pas conscient du monde. Dans cet état, vous saurez sans le moindre doute qu'à la racine de votre être, vous êtes libre et heureux. Tout ce qui arrive dans votre conscience est votre maître, et la présence qui est au-delà de votre conscience est le maître suprême. Je suis l'être manifesté dans sa totalité, et chaque être est un échantillon de moi-même. Dans chaque espèce vivante, la connaissance « je suis » est moi. La force de vie, principe lumineux, intime, rayonnant, est moi. Si quelqu'un me comprend complètement, exactement, il trouve aussitôt abri à l'ombre bienveillante de mon être. Lorsque l'on demeure à proximité du maître, la capacité de compréhension mûrit. La capacité de recevoir son enseignement augmente. Elle s'élève à l'intérieur du disciple, elle ne vient pas de l'extérieur. Le moment est venu pour vous de prendre une ferme décision. Il vous faut perdre cette certitude d'être un corps, un savoir, et être uniquement cette certitude intime, « je suis » qui n'a ni forme ni nom. Soyez simplement. Lorsque vous serez stabilisé dans cet état d'être-té, il vous donnera toute sa science et tous ses secrets. Alors vous transcenderez l'être, et vous, l'absolu, saurez que vous n'êtes pas non plus la conscience. Ayant absorbé toutes ces révélations, ayant compris qui est quoi, la quiétude dominera en vous, une grande tranquillité. L'être sera transcendé tout en demeurant à votre disposition. Le jour où j'ai tout compris, j'ai découvert que je n'avais jamais réellement fait l'expérience d'être vivant, que je suis un état bien au-delà de l'expérience. Pourquoi est-ce arrivé ? Mon maître m'a clairement expliqué que le « je » conscience est apparu, que ces expériences ont été éprouvées de manière à ce qu'il soit possible de voir la vraie nature du « je » conscience, d'aller à la source et de découvrir d'où vient ce « je ». C'était l'état de non-attention. L'absolu suprême, l'état attentif « je suis » était absent. Mon état est ce qui n'a jamais connu la création ou la dissolution de l'univers. Jusqu'ici, je n'ai jamais parlé de cela. Je demeure immuable au travers des créations et des dissolutions de l'univers. L'en soi absolu suprême, l'état qui n'a besoin de rien, après la dissolution de l'univers, il n'y a même plus trace de la création. Et ce qui reste est l'état parfait. Je, absolu, suis resté immuable, alors même que l'univers était créé et retournait au néant. Je n'ai jamais parlé de ça. Mon état n'a jamais senti ni la création, ni la disparition de l'univers. Je suis le principe qui survit à toutes les créations et toutes les dissolutions. C'est mon état et c'est le vôtre aussi. Mais vous ne le savez pas parce que vous êtes attaché à votre être moi. On le réalise seulement lorsque la foi invincible est là. Cet éternel en soi, absolu, suprême. Il est là, il est la propriété éternelle de celui qui suit son maître spirituel. On ne peut connaître que ce qui est distinct de soi. Comment une chose pourrait-elle se connaître quand il n'y a rien à quoi elle puisse se comparer? Elle est seule, sans identité, sans attribut. Il n'est possible d'en parler qu'au stade phénoménal. cela a eu lieu, va se produire un certain temps, puis s'en aller. L'ensemble corps, souffle, connaissance je suis a été créé. Ce qui arrive est déjà contenu dans cet ensemble. J'en ai été détaché juste avant la conception. Et je continue à demeurer à l'écart, simple observateur de ce qui a été créé. Le temps l'a commencé et il le terminera. Ce qui a été conçu et qui est né, n'est-il pas aujourd'hui toujours le même? Depuis sa conception, ce je n'a pas changé. Il est venu pour durer un certain temps, c'est tout. Ce qui a été conçu s'est développé biologiquement. Et certains aspects de cette connaissance « je suis » se sont manifestés en réalisation grandiose. Certains sont devenus des avatars, d'autres ont connu de grands succès dans divers champs d'activité. Ensuite, lorsque leur temps fut épuisé, ces personnalités brillantes et ce qu'elles avaient accompli ont disparu. Ce temps a pu parfois s'étendre sur de nombreuses années. Ce « je suis » a pu dans certains cas se maintenir en existence pendant des siècles. La fin, malgré tout, était inévitable. Toute personne incarnée possédant cette connaissance « je suis » poursuit ses activités dans le monde, toujours avec le nom. Mais cet intérieur, lui, est libre. Quand il est compris que je suis seulement ce que je suis, et non pas cette forme enchaînée, il n'est plus besoin de libération. C'est cette compréhension qui est la libération. C'est comprendre que nous ne sommes qu'un qui est la grâce. La grâce signifie la totalité, unicité, il n'y a aucune fragmentation. Voilà un problème difficile. Il vous faut rejeter et vous débarrasser de tout ce que vous savez, de tout ce que vous avez lu. Et en même temps, posséder une conviction absolue sur cela dont personne ne sait la moindre chose. Vous ne pouvez vous procurer aucune information sur cela. Et pourtant, sur cela, vous devez avoir la conviction la plus totale. Que c'est difficile. Il est dit que tout ceci est irréel. Quand est-ce certifié irréel ? Quand on comprend qu'il s'agit d'une phase temporaire, parce que le processus de cette compréhension se déroule dans l'absolu. Et seulement de l'absolu est reconnu qu'il s'agit d'un état irréel et temporaire. Tout ce qui peut surgir à partir du moment où cette conscience est atteinte est comme une dose de sel dans la mer, inutile. La conscience devient inutile. Jetez toutes les pensées, toutes les expériences, tout ce qui s'est passé après l'apparition de cette conscience. Il faut tout rejeter comme étant inutile. Il n'y a rien d'autre à faire en dehors de cette inébranlable compréhension d'être qui vous absorbe de plus en plus. Si je pensais que vous n'êtes qu'un corps, vous ne retireriez aucun profit de mes réponses. Aucun vrai maître ne se complaît dans les opinions. Il voit et montre les choses telles qu'elles sont. Si vous voyez les gens comme ils pensent être eux-mêmes, vous ne ferez que les blesser, comme ils se blesseront eux-mêmes grièvement tout le temps. Mais si vous les voyez tels qu'ils sont en réalité, cela leur fera un bien immense. S'ils vous demandent que faire, quelle pratique adopter, quel genre de vie mener, répondez. Ne faites rien. Soyez tout naturellement. Dans l'existence, tout arrive naturellement. Lorsque je ne désire rien, que peut me donner Dieu ou me retirer. Ce qui est mien est mien, et était mien même quand Dieu n'existait pas. Bien sûr, c'est une très petite chose, un atome, le sentiment du je suis, le fait d'être. C'est ma place, personne ne me l'a donnée, la terre est mienne, ce qui croit sur elle est à Dieu. L'impersonnel a besoin d'une base, d'un corps auquel il puisse s'identifier. L'impersonnel est la racine de la matière et la source de la conscience. Dans la personne, l'absolu se reflète comme conscience. La pure conscience devient conscience de soi quand il y a un soi. La conscience de soi est le témoin. L'éveil devient conscience quand il a un objet. L'éveil est en soi immuable et intemporel, ici et maintenant. Je suis dans mon état propre en permanence dans le maintenant. Je suis maintenant. Je vois le même monde que vous, mais je ne le vois pas de la même façon. La connaissance « je suis » a sa source dans l'amour, et cet amour se manifeste dans le monde. Vous n'êtes que l'évidence de l'être-té, la certitude d'être, rien d'autre. Vous êtes la potentialité ultime dont la conscience qui embrasse tout est la manifestation et l'expression. La source de tout ce qui est, c'est l'infinie possibilité, la réalité suprême qui est en vous et qui projette son amour et sa puissance sur chaque expérience. Le fait d'être est universel. Vous êtes amour. Le vous êtes amour. Mais il s'exprime spontanément à travers le souffle vital. De même que le corps a des membres afin d'accomplir son travail, ce sentiment « je suis » dispose du souffle vital lui permettant de se livrer à ses activités. L'essentiel n'est pas d'aimer les autres, mais de posséder la connaissance directe de ce que vous êtes. Ce pur amour prend soin de vous. Il est votre nourriture, votre force motivante. Focalisez votre attention sur lui. Son mouvement est révélé par la force vitale. La sensation tangible de sa présence est le sentiment « je suis ». Cet amour est amour universel. Il n'est pas dirigé vers une chose ou vers une personne particulière. Il est semblable à l'espace. L'espace ne dit pas « je n'existe que pour un tel et un tel ». Il ne s'attache pas à une personne en particulier. Cet amour manifesté est universel. L'amour primordial est amour d'être. Et ensuite, seulement, il peut devenir amour des autres. Pourquoi éprouvez-vous de la joie de vivre? Parce que vous aimez être. Mais, quand on ne découvre pas de maître extérieur, il y a toujours le maître intérieur de l'être, l'en-soi, qui vous dirige et vous aide du dedans. Les mots intérieur ou extérieur ne sont relatifs qu'au corps. En réalité, tout est un. L'externe n'étant qu'une projection de l'interne. L'éveil se manifeste comme venant d'une dimension plus haute. Rien ne meurt. Le corps n'est qu'imaginé. Il n'existe pas. Le temps sera venu à sa fin. C'est ce qu'on appelle la grande mort, la mort du temps. L'immortalité est la libération de la sensation « je suis ». Cependant, ce n'est pas l'extinction. Au contraire, c'est un état infiniment plus réel, plus conscient, plus heureux que vous ne pouvez le concevoir. Seulement, il n'y a plus de conscience de soi. Maharaja, pourquoi la grande mort du mental coïncide-t-elle avec la petite mort du corps? Mais elle ne coïncide pas. Vous pouvez mourir d'une centaine de morts sans rupture dans le tumulte du mental. ou vous pouvez conserver votre corps et ne mourir que dans le mental. La mort du mental est la naissance de la sagesse. L'éveil est dynamique, l'amour est existant. L'éveil, c'est l'amour en action. Le mental peut par lui-même actualiser de nombreuses possibilités, mais à moins qu'il ne soit inspiré par l'amour, cela reste sans valeur. L'amour précède la création. Sans lui, il n'y a que chaos. L'acte véritable ne déplace pas, il transforme. Un changement de lieu n'est que pur déplacement. Un changement dans le cœur est un acte. Souvenez-vous seulement que rien de perceptible n'est réel. L'activité n'est pas l'action. L'action est cachée, inconnue, inconnaissable. Vous ne pouvez en connaître que les fruits. L'être comporte deux principaux états, la veille et le sommeil. Qui avait-il avant eux? Est-ce vous qui naissez ou les états de veille et de sommeil? La veille est l'état où l'on se rappelle le je suis, et le sommeil profond est l'état où l'on oublie le je suis. Qu'y a-t-il hormis la naissance de ces deux états? Pourquoi ne parlez-vous pas d'eux, de ces états de mémoire et de non-mémoire? S'ils n'existent pas, que voulez-vous? Après avoir compris que vous n'étiez qu'un agrégat de souvenirs liés ensemble par l'attachement, sortez-en et regardez-le de l'extérieur. Vous pourrez, pour la première fois, percevoir quelque chose qui n'est pas la mémoire. Mon foyer, c'est l'immuabilité qui apparaît comme un état de constante réconciliation et d'intégration des contraires. Pour qu'une chose arrive, il faut que tout l'univers concorde. Il est faux de croire qu'une chose en particulier peut être la cause d'un événement. Toute cause est universelle. Votre corps même n'existerait pas si l'univers n'avait pas contribué à sa création et s'il ne concourait pas à sa survie. Je suis pleinement conscient que les choses arrivent comme elles arrivent parce que l'univers est ce qu'il est. Pour changer le cours des événements, il faut que j'introduise un nouveau facteur. Et ce facteur ne peut être que moi-même, la puissance de l'amour et de la compréhension concentrée en moi. Contentez-vous de regarder et de vous souvenir que tout ce que vous percevez n'est ni vous ni vôtre. Il n'y a pas de conditions à remplir. Il n'y a rien à faire et à quoi il faille renoncer. C'est là, présent dans le champ de la conscience, mais vous n'êtes pas le champ, ni son contenu, ni même le connaisseur du champ. Découvrez qui vous êtes. Comment vous êtes venu à la vie, rempli d'un ardent désir de vérité, de bonté et de beauté, dans un monde submergé par le mal. Hélas, vous n'êtes pas encore ici. Je suis ici et je vous dis entrez, mais vous n'en faites rien. Vous voulez que je vive votre vie, que je sente à votre façon et que j'utilise vos mots. Je ne peux pas le faire et cela ne vous aiderait pas. Vous devez venir à moi. Les mots participent du mental et le mental obscurcit et déforme. De là vient l'absolue nécessité d'aller au-delà des mots pour venir chez moi. Quand je dis « je suis », je ne veux pas dire que je suis une entité séparée dont le corps serait le noyau. Je veux dire que je suis la totalité de l'existence, l'océan de la conscience, l'univers entier de ce qui est et de ce qui connaît. Je n'ai rien à désirer parce que je suis à jamais complet. Le fait d'être se présente dans le champ de notre attention. Toutes les espèces, insectes, animaux, êtres humains et ainsi de suite, sont le produit des essences de végétation. La qualité d'être se trouve dans la végétation, à l'état latent. C'est la conscience qui fascine les corps, que ce soit celui d'un Krishna ou celui d'un âne. La conscience ne varie jamais. C'est dans le corps que vit, sans se salir, l'âme secrète. C'est là que vit l'un, dont la vie, la sensibilité ou connaissance se sont répandues partout dans le corps. Il vous donne tout ce qui est beau, tout ce qui est parfumé. Votre existence est omnipénétrante. La goutte de je suis contient l'univers en totalité. Nous ne sommes profonds qu'en étant sans pensée. Réalisez l'état sans pensée. Vous êtes avant que le mental soit. N'accordez pas d'importance aux pensées, mais à la conscience. Les pensées continueront à se lever à cause du souffle vital. Vous pouvez faire usage de n'importe quelle pensée qui vous est utile. Vous vous absorbez dans votre soi avec le plus grand intérêt. Vous pouvez l'atteindre rien qu'en portant votre attention sur la conscience du « je », en ne portant pas votre attention sur le corps, mais sur le sens du « je suis ». Votre besoin est de connaître votre soi. Je vous indique la voie directe. Je vous indique ce que vous êtes avant l'intervention des mots. Le corps humain n'est pas le soi. Dans la solitude totale se fit le contact avec le je suis. Tout comme une minuscule graine contient l'arbre tout entier, ainsi le je suis contient toute la création. Tout est Dieu, jusqu'au plus infime atome. Lisez le livre « Je suis » en partant du point de vue que vous n'avez ni forme, ni couleur, que vous êtes la lumière. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous pouvez lire ou pas. Faites ce que je vous dis et peu à peu, les choses vous seront révélées. Certains sont tout à fait prêts à accepter ce que je dis et d'autres doivent être battus et même ainsi ils ne comprennent pas. Mais si vous êtes prêts, les choses vous seront révélées. Certains sont si obstinés qu'on peut les comparer au plat indien popadom. Il faut beaucoup pétrir la pâte et même après, elle reste dure, en sorte qu'il faut la rouler avec force et ensuite seulement la faire frire. Certains ont besoin d'un enseignement laborieux, alors que d'autres sont tout à fait prêts et accepteront les choses aussitôt qu'on les leur dit. D'autres se contentent d'écouter et de se concentrer sur mes paroles. Et soudain, une explosion se produit. Le cœur même de chaque atome est imprégné de la connaissance « je suis ». Embrassez tous les atomes de l'univers avec le sentiment que chacun d'eux est entré en vous sous la forme de la connaissance « je suis ». Vous entendez parler de cette connaissance de quelque chose dont la conscience du corps mental ne peut faire l'expérience. Et c'est au moyen des mots et de la conscience du corps mental. Quoi que je dise, seuls pourront l'assimiler ceux dont le terrain est prêt. Même ceux qui s'imaginent avoir compris n'ont pas compris comme je voudrais qu'ils comprennent. Les gens viennent quand ils s'ouvrent à l'absolu. Cette ouverture se fait à leur insu. Ce qui arrive par la conscience ne dure pas. C'est inconsciemment, spontanément que l'ouverture se fait. Et ce processus est incompréhensible. Tout ce qui est compréhensible est transitoire. Tout arrive spontanément. Maharaja, que signifie le fait de voir une lumière pourpre en méditation? Toute image est créée par votre propre illumination. Cette lumière peut prendre la forme d'un seigneur Krishna, du Christ, de Rama et ainsi de suite. Mais elle est la lumière du soi, votre création. Ce que vous voyez est votre propre lumière. Il y a la conscience éveillée réelle, d'où procède la conscience, qui est votre sentiment « je suis ». Soyez un avec votre conscience. C'est tout ce que vous pouvez faire. L'État doit venir à vous. Tout ce que vous pouvez faire est d'observer ce qui arrive. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'obtenir. Le sentiment de présence n'appartient à personne. Il est, sans plus. Il est, au-delà de toute description. Les mots ne sont ici d'aucun usage. C'est l'état permanent et la manifestation n'est que son mouvement. Personne ne devient l'absolu. Personne ne peut le devenir. Il est. Avant que la connaissance « je suis » soit apparue en vous, voilà ce qu'est l'absolu. L'absolu n'est pas... L'absolu est au-delà du soi. De cette réalité totale procède l'éther de la conscience, le désir d'être. De là, n'est l'espace physique, la manifestation tout entière en une fraction de seconde. Vous devez rester avec votre soi. Le soi est le maître. Le sentiment de présence n'appartient à personne. Il est, sans plus. Il est au-delà de toute description. Les mots ne sont ici d'aucun usage. C'est l'état permanent et la manifestation n'est que son mouvement. Personne ne devient l'absolu. Personne ne peut le devenir. Il est. Avant que la conscience « je suis » soit apparue en vous, voilà ce qu'est l'absolu. L'absolu est au-delà du soi. De cette réalité totale procède l'éther de la conscience, le désir d'être. De là naît l'espace physique, la manifestation tout entière en une fraction de seconde. Vous devez rester avec votre soi. Le soi est le maître. La foi dans les paroles du maître doit être une foi vivante. Les pensées peuvent aller et venir, mais la foi doit rester inchangée. Demeurez dans le « je suis ». Ce faisant, vous serez un avec le maître manifesté, le Sadguru, l'en-soi, celui qui est témoin de l'apparition et de la disparition du maître qu'est le « je suis ». Au départ, vous avez besoin de quelqu'un qui soit un en-soi. L'en-soi veut dire « qui a sa demeure dans l'absolu ». Ceux à qui il tarde de découvrir la vérité rencontreront obligatoirement un en-soi sur leur chemin. Dans mon état originel, je n'ai ni forme, ni pensée. Je ne sais pas que je suis. Puis soudain, apparaît en moi un autre état où j'ai la forme et la pensée « je suis ». Comment cet état est-il apparu? Celui qui peut expliquer ces manifestations est l'en-soi. Par l'attachement au cours mental, vous vous séparez du monde manifesté et distinguez de multiples entités. Dans cet état, il vous vient toutes sortes de désirs d'amélioration tant pour vous-même que pour les autres. L'état suivant est celui du « je suis », où toute action est moi-même, toute chose manifestée est moi-même, nous nous confondons. Là, il n'est plus question d'amélioration. Vous n'êtes que manifestation, je suis tout. Ensuite, il y a l'état du non-créé, où l'être qui comprend « je suis » n'est plus. C'est l'état suprême. Vous n'êtes que l'évidence de l'être-té, la certitude d'être, rien d'autre. Vous êtes la potentialité ultime dont la conscience qui embrasse tout est la manifestation et l'expression. La source de tout ce qui est, c'est l'infinie possibilité, la réalité suprême qui est en vous et projette son amour et sa puissance sur chaque expérience. Le fait d'être est universel. Un fait est ce qui est perçu dans la présence. Un fait est ce qui est perçu dans la pure présence éveillée que n'affecte ni le désir ni la peur. Un fait est ce qui peut être expérimenté. Un fait est toujours non-verbal. Le langage. Quand les mots ont été dits, il y a le silence. Le silence qui s'installe quand les mots ont été prononcés est-il différent du silence qui existait avant qu'il ne le soit? Le silence est un, et sans lui, nous n'aurions pu entendre les mots. Il est toujours présent derrière les mots. Portez votre attention sur le silence en place des mots et vous l'entendrez. Il est inutile de se battre avec les mots pour exprimer ce qui transcende les mots. J'essaie uniquement de décrire l'état qui se situe avant que le « je suis » ne se manifeste, car l'état lui-même, qui dépasse le mental et son langage, est indescriptible. Les mots ont une valeur car il y a un lien direct entre le mot et sa signification. Et si vous étudiez le mot assidûment, vous dépassez le concept pour atteindre l'expérience qui est à sa racine. La pratique spirituelle, la méditation, n'est jamais qu'une tentative obstinée de dépasser les formes verbales pour atteindre le non-verbal. Le mot lui-même est le pont. Souvenez-vous-en, pensez-y, étudiez-le, retournez-le, contemplez-le sous toutes ses faces, plongez en lui avec application et persévérance, supportez tous les retards et tous les désappointements, jusqu'à ce que soudainement, le mental se retourne, s'éloignant du mot vers la réalité qui le dépasse. Les mots vus ou entendus ne feront que créer des images dans votre mental, mais vous-même, vous n'êtes pas une image mentale. Vous êtes le pouvoir de perception et d'action situé derrière et au-delà de l'image mentale. Le réel est derrière et au-delà des mots. Incommunicable, il est éprouvé directement et ses effets sur le mental sont explosifs. La véritable communication entre les gens n'est pas verbale. Les mots sont fabriqués par le mental et ils n'ont de signification qu'au plan du mental. Vous ne pouvez pas manger le mot pain, pas plus que vous ne pouvez en vivre. Il ne fait que communiquer une idée. Il acquiert un sens uniquement dans l'action réelle de manger. C'est dans ce sens que je vous dis que l'état normal n'est pas verbal. L'enseignement oral a son utilité. Il prépare le mental à se vider lui-même de ses accumulations. L'expérience ne peut pas se communiquer avec des mots. Elle vient avec les actes. Un homme qui vit intensément son expérience rayonne de confiance et de courage. Je n'ai pas d'objection à faire aux conventions de votre langage, mais elles dénaturent et détruisent la réalité. Une manière plus exacte de s'exprimer est de dire « il y a la parole, il y a le travail, il y a la venue, il y a l'aller » et non pas « je parle, je travaille, je viens, je pars ». Concentrez-vous seulement sur ce point. Ne vous occupez que d'une seule chose. Ce que vous entendez ou percevez ne provient pas du corps physique. Car vous vous tenez bien avant le corps. La question et celui qui la pose n'ont pas d'existence. Il n'y a que le son. Le son est émis et le son répond au son. immergé dans cette présence au fait d'être, la force vitale en vous se manifestera en mots. Ces mots surgissent spontanément, seront supérieurs à ceux des Upanishads. L'être et le corps constituent les médias permettant au sage réalisé de communiquer. Mais le sage réalisé n'est pas le langage utilisé dans cette communication. Vous aussi, vous pourriez être plongé dans cet état de sage réalisé, à condition de retourner en arrière et vous maintenir dans l'état antérieur à la formation des mots. Cet état est appelé source conscience. Elle est la source de ce qui deviendra mots et langage. Un tel état se révèle à la frontière du sommeil profond et du réveil, au point d'émergence de la conscience. De ce niveau, qui est le commencement, à l'explosion vocalisée qui sort de la bouche, il existe trois autres stades, qui forment en tout quatre niveaux. Le second niveau est émanation-concept, l'état naissant des mots, mais non perceptible, organisation intangible du langage. Le troisième niveau est forme, pensée, mot, l'état charnière où se produit la mise en forme dans une zone de l'intellect, et le quatrième stade, la vocalisation, lorsque le souffle permet l'explosion hors de la bouche en expression vocale. Source conscience est la plus subtile forme du langage. Ici, elle possède une connotation plus profonde. Elle est l'indication d'une différenciation de l'état d'absolu tout en demeurant très proche de l'absolu. Autre, source conscience n'est pas le langage de l'absolu, parce que c'est une résultante de l'être. Après avoir suivi plusieurs stades de développement, le langage exprime vocalement un concept qui, si nous l'acceptons, nous possède. Au cours de ce processus, nous nous identifions totalement à ce concept et perdons notre véritable identité. Dans cet état source-conscience, on acquiert des pouvoirs et il est possible de lire dans le passé et le futur. Cet état conduit également à l'éveil de l'énergie Kundalini. Pour poursuivre une activité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, les mots sont indispensables. Un sage réalisé, ayant transcendé tous les concepts, devient sans mots. Les mots sont devenus silence dans la quiétude du sage réalisé, parce qu'en répétant « je ne suis ni ceci, ni cela », les Védas ont épuisé les mots jusqu'au Vedanta, la fin des mots. Je demeure ancré dans la conscience, à la source des concepts et du langage. De ce niveau émergent les idées depuis leur formation subtile jusqu'à leur forme grossière d'expression vocalisée. Un jour, le souffle vital et la conscience qui est connaissance je suis se dissoudront dans votre véritable nature. C'est à partir du produit du souffle vital que se développe en quatre étapes le langage. Source conscience est le stade le plus subtil et la vocalisation le stade le plus grossier. L'état antérieur à source conscience est simple amour de l'être, le sentiment d'amour qui donne naissance à toute activité. Votre propre être est amour. Demeurez fidèle au sentiment « je suis ». Ce « vous êtes » résidant dans le corps est amour. Mais il s'exprime spontanément au travers du souffle vital. Les activités sont suscitées par le souffle vital. Ce sentiment « je suis » dispose du souffle vital lui permettant de se livrer à ses activités. Ce pur amour prend soin de vous. Son mouvement est révélé par la force vitale. La sensation tangible de sa présence est le sentiment « je suis ». Cet amour n'est pas dirigé vers une personne particulière. Il ne s'attache pas à une personne particulière. Cet amour manifesté est universel. Tous vos ennuis ont leur source dans cette identification avec le corps-moi. Votre destination est votre propre nature, ce je suis. La conscience est avant le souffle vital. Ce n'est pas le mental, mais c'est le souffle vital qui vous donne le sentiment d'être une entité séparée. C'est la force vitale qui fait naître les pensées. Sans elle, il n'y aurait pas de mental. Le souffle fait naître les pensées dans le monde. Et vous, vous ne faites que les observer. Le son qu'il faut entendre est le son muet. Seul le son muet peut entendre le son réel. Le non manifesté n'est absolument pas doué de parole. La pensée naît du souffle et elle s'exprime par les mots. Sans les mots, il ne peut y avoir de communication dans le monde. Le monde se maintient grâce aux mots et aux noms. Sans nom, plus personne n'est identifiable. Le nom revêt donc une grande importance. Dieu lui-même doit recevoir un nom. Et quand on répète son nom, cela a une signification. Le langage et le souffle doivent fusionner. Au commencement, tout arrive dans l'espace cosmique et il en résulte des événements concrets dans l'espace du monde. Tout cela arrive de soi-même. Il n'y a pas d'autre auteur, pas de créateur. Au niveau du monde, des corps divers se forment et à ce niveau, nous trouvons l'attraction du corps. En premier lieu, celle de notre corps et ensuite l'attraction des autres corps. Les instruments, les aides à tout ce qui arrive dans le monde du concret, tout vient de l'espace. L'espace est là avant la lumière. La matière brute vient de l'espace. L'espace est là avant la lumière. Quand la lumière se rassemble, elle prend l'apparence du soleil. La connaissance du bien et du mal a pour seule base les mots. Les mots qui sont des expressions de l'espace. C'est seulement au niveau des mots que l'on pense que quelque chose de bon ou de mauvais va arriver. Quand on s'identifie à l'espace, il n'y a plus ni bien ni mal. C'est le souffle vital qui déclenche le flux des pensées. Intellect veut dire mots. Donc les pensées sont là. Et elles forment des concepts. C'est là un des attributs du souffle vital, produisant sans arrêt concepts, idées, créations. Tout ce qui arrive dans le monde est dû à la force vitale. Mais le soi est totalement à part, témoin. Aucune action ne peut être attribuée au soi. Tant que vous n'avez pas compris le souffle vital, dont l'expression est constitué par les quatre types de langage véhiculés par le souffle vital, tant que vous ne l'aurez pas reconnu, vous ne considérerez comme réalité. Pardon. Tant que vous n'avez pas compris le souffle vital, dont l'expression est constituée par les quatre types de langage véhiculés par le souffle vital, tant que vous ne l'aurez pas reconnu, vous considérerez comme réalité tout ce que vous présentera l'intellect. Les concepts fournis par l'intellect seront pour vous irrévocables. Il y a source conscience, puis émanation concept, puis forme pensée mot et vocalisation. La personne ordinaire, ignorante, ne connaît pas source conscience et émanation concept, qui sont le commencement du processus. Ils sont trop subtils. La personne ordinaire commence à participer au niveau forme, pensée, mot, qui est identifié à l'intellect et aboutit au mot vocalisé. L'intellect projette mots et pensées, et c'est au travers de cela que nous avons fait l'erreur d'échafauder notre identité en tant que moi et mien. Alors que ce qu'il se passe est totalement indépendant de celui qui en est le témoin. C'est la force vitale qui fait agir. Cette conscience s'est identifiée de façon totalement fausse au corps, aux pensées et aux mots. Elle se considère comme capable de certaines actions ou au contraire d'avoir acquis des mérites à la suite de tel ou tel comportement. Alors que tout, absolument tout, résulte de l'activité de la force vitale. Celui qui a compris cette force vitale, ce souffle vital, est au-delà de tout concept mental. Celui qui n'a pas compris est l'esclave de ses pensées. L'intellect projette mots et pensées, et c'est au travers de cela que nous avons fait l'erreur d'échafauder notre identité en tant que moi, mien. Alors que ce qu'il se passe est totalement indépendant de celui qui en est le témoin. C'est la force vitale qui fait agir. Cette conscience s'est identifiée de façon totalement fausse au corps, aux pensées et aux mots. Elle se considère comme capable de certaines actions, ou au contraire d'avoir acquis des mérites à la suite de tel ou tel comportement, alors que tout, absolument tout, résulte de l'activité de la force vitale. Celui qui a compris cette force vitale, ce souffle vital, est au-delà de tout concept mental. Celui qui n'a pas compris est l'esclave de ses pensées. La force vitale se purifie par la pratique de la méditation. Quand elle est purifiée, la lumière du soi rayonne, mais le principe actif est la force vitale. Quand cette force vitale purifiée et la lumière du soi fusionnent, les concepts, l'imagination, l'intellect, tout cela vous est retiré. La force vitale est seule agissante. C'est elle qui accorde la sensibilité et la compréhension à la personne. La force vitale se manifestant en pensée et en mots est l'intellect. C'est donc cette force vitale intellect qui est le principal agissant. L'être est le Dieu témoin de l'activité de la force vitale et de l'intellect. Il n'intervient pas. Il n'a aucune interférence. Il assiste simplement à ce qui arrive. La raison de votre lassitude est que vous croyez, vous, agir. L'intellect comprend ce qu'est le concept, en s'appuyant sur la conscience, d'où le concept a surgi à cet instant. Tant qu'il y a des mots, il y a un chercheur. Quand les mots disparaissent, il n'y a plus rien. J'ai fait l'expérience des quatre sortes de langage et je les ai transcendés. Il est rare que quelqu'un suive cette hiérarchie pour d'abord se stabiliser dans la conscience et ensuite la transcender. Commençons par la vocalisation. Nous écoutons normalement les mots prononcés. Puis, allons à forme pensée-mot, observant le fonctionnement mental. Passons ensuite à émanation-concept, où les concepts se forment. De là, à source-conscience, qui est « je suis sans mots ». Puis finalement, de source-conscience à ce qui est antérieur à la conscience. Voilà la ligne d'évolution, mais rares sont ceux qui l'adoptent, reculant, remontant. Les mots peuvent être utilisés en vue de la destruction aussi. Les images sont construites à partir des mots, elles peuvent être détruites. C'est en pensant avec des mots que vous avez atteint votre état présent, c'est de la même façon que vous en sortirez. L'aventure intérieure, l'amour. Qu'est-ce que l'amour alors? Ne serait-ce pas un état de l'être plutôt que du mental? Est-il nécessaire que vous vous sachiez aimer pour aimer? Votre soif d'amour, d'une raison d'aimer, n'est-ce pas un mouvement d'amour? L'amour ne fait-il pas partie de vous au même titre que la conscience d'être? L'amour, c'est la volonté. La volonté de partager votre bonheur avec tous. Être heureux, rendre heureux, voilà le rythme de l'amour. Quand vous êtes l'amour, vous êtes au-delà du temps, du nombre. En aimant l'un d'entre eux, vous les aimez tous. En les aimant tous, vous aimez chacun. L'un et le tout ne sont pas exclusifs. Tâchez de comprendre ceci. Ressentir délibérément de l'amour envers les autres n'est pas possible. Ce sentiment d'amour doit être compris. Seulement alors, l'amour se révèle et se déploie. Ceux qui ont compris ce qu'est le véritable amour, l'amour de notre vérité, cette conscience originelle « je suis », sont eux-mêmes devenus amour. Tout a fusionné en eux. Cet élément premier qui fait fonctionner le corps est le plus petit des petits et le plus grand des grands. Il contient l'univers entier. Il est lui-même amour et Dieu. Cet amour n'est pas individuel. Il est le principe résidant en tout individu. Il est force de vie. Commencez par cet amour sensible et habitez votre être. Ce que vous cherchez, c'est à exprimer en acte ce que vous êtes. C'est plutôt une question d'amour qui cherche à s'exprimer et qui rencontre des obstacles. L'esprit qui inclut, c'est l'amour en action. Le monde est l'amour agissant qui se bat contre les circonstances, d'abord vaincu, puis victorieux, en dernier ressort. L'amour revêt sa forme la plus pure quand il n'y a plus de différence entre l'aimé et celui qui aime. Ce pur amour prend soin de vous. Son mouvement est révélé par la force vitale. La sensation tangible de sa présence est le sentiment « je suis ». Cet amour n'est pas dirigé vers une personne particulière. Il ne s'attache pas à une personne en particulier. Cet amour manifesté est universel. L'amour est la vie et la vie est amour. Le « je suis » nous est commun à tous. Au-delà du « je suis », il y a l'immensité de la lumière et de l'amour. Quand on maintient son mental éloigné de ses préoccupations, il devient paisible. Si vous ne troublez pas cette tranquillité et que vous demeurez en elle, vous découvrirez qu'elle est pénétrée d'une lumière et d'un amour que vous n'avez jamais encore connu. Et néanmoins, vous la reconnaîtrez immédiatement pour votre véritable nature. Le bon usage du mental, c'est de le mettre au service de l'amour, de la vie, de la vérité et de la beauté. Me voir en chacun et tous en moi, c'est assurément l'amour. Au-dessus de l'unité de l'être, il y a l'union de l'amour. L'amour est le sens et le but de la dualité. La seule chose qui compte, c'est de ne blesser personne. La seule chose qui ait de la valeur en ce monde est l'amour. Le soi est tout. En pratique, il prend la forme d'une bienveillance sans faille et universelle. Vous pouvez l'appeler l'amour qui pénètre tout, qui rachète tout. Un tel amour dont est absent le sentiment faire est suprêmement actif. L'être resplendit en tant que connaissance. La connaissance est la chaleur de l'amour. L'être resplendit en tant qu'émanation de l'amour. La chaleur se dégage. La connaissance se dégage de l'amour, émane de l'amour. C'est le soi qui nous incite à comprendre et à connaître. Et tout cela est un. Cette immensité est mon foyer. Cette vastitude est moi-même. Et elle est aussi amour. Si vous êtes, et si vous êtes, veut dire dans l'état d'amour, alors le monde existe. Si vous n'êtes pas, c'est-à-dire si l'état d'amour n'est pas, le monde n'existe pas non plus. Le problème de votre bonheur ou de votre détresse dépendra entièrement de la compréhension de votre propre soi. Vous êtes, votre amour est, le savoir suffit. Associez-vous seulement à cela. Faites-en en vous-même la synthèse. Soyez uniquement un avec cela. Soyez intimement associé avec ce « je suis ». vous n'avez rien à faire. Ne faites pas autre chose qu'être pleinement associé avec le je suis qui est amour. Si vous percevez le courant d'amour, il signifie le mouvement de votre propre pure conscience. Cette perception signifie votre soi qui a soif de connaître et qui est flot d'amour. Cet amour signifie le soi aimant le soi. Ce qui est nécessaire, c'est un désir profond et sincère de la réalité. Nous l'appelons l'amour du suprême ou la détermination de se libérer du faux. Sans l'amour et la volonté qu'inspire l'amour, rien ne peut être accompli. Il faut qu'il y ait de l'amour entre la personne qui dit « je suis » et le spectateur de ce « je suis ». Soyez ce que vous êtes, l'intelligence et l'amour en action. Que je parle ou non, la lumière et l'être, et l'amour de l'être que je suis n'en sont pas touchés, pas plus qu'ils ne sont sous mon contrôle. Regardez le « je suis » comme un signe d'amour entre l'interne et l'externe, le réel et l'apparence. Le « soi » est la source même de l'amour. Son potentiel est tel qu'après avoir pourvu d'amour le monde entier, il subsiste toujours. Il subsiste et se maintient dans cette semence, le « je suis ». Ce « je suis » est ce qui reste de cet amour. Quand vous aurez réalisé que vous êtes la lumière du monde, vous réaliserez aussi que vous êtes aussi l'amour, que s'aimer, c'est savoir, et que de savoir, c'est aimer. L'amour de vous-même, d'entre toutes les affections, vint en premier. Votre amour du monde est la réflexion de l'amour que vous vous portez, parce que le monde est votre création. La lumière et l'amour sont impersonnels, mais ils se réfléchissent dans votre mental comme connaissance de soi et bon vouloir pour soi. Dans mon monde, l'amour est la seule loi. Je ne mendie pas l'amour, je le donne. Telle est ma nature. Mais il est dans la nature de l'amour de s'exprimer, de s'affirmer et de surmonter les difficultés. Quand vous aurez compris que le monde est l'amour agissant, vous le regarderez d'une manière totalement différente. Mais il vous faut d'abord que votre attitude change face à la souffrance. La souffrance est avant tout un appel à votre attention, qui est elle-même un mouvement de l'amour. Plus que le bonheur, l'amour désire la croissance, l'élargissement, l'approfondissement de la conscience et de l'être. Tout ce qui y fait obstacle est une cause de douleur. Et l'amour n'esquive pas la douleur. Il ne faut pas que la vraie essence de l'être, l'harmonie universelle, l'énergie qui travaille en vue de la justice et d'un développement ordonné, soit contrariée. Quand elle rencontre des empêchements, elle se retourne contre elle-même et elle devient destructrice. Chaque fois que l'on refuse l'amour et qu'il est permis à la souffrance de s'étendre, la guerre devient inévitable. Notre indifférence à l'égard de la souffrance du voisin dépose la souffrance à notre porte. Ce que vous êtes, votre vrai soi, vous l'aimez quoi que vous fassiez, vous le faites pour votre bonheur. L'aimer, le connaître, le chérir, c'est votre instinct fondamental. Vous vous êtes aimé depuis des temps immémoriaux, mais jamais avec sagesse. Avec sagesse. Usez de votre corps et de votre mental au service du soi. C'est tout. Soyez sincère envers lui. Aimez-le d'un amour absolu. Ne feignez pas d'aimer les autres comme vous-même. À moins que vous n'ayez réalisé qu'ils sont un avec vous, vous ne pouvez les aimer. Ne feignez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Ne refusez pas d'être ce que vous êtes. Votre amour des autres est le produit de la connaissance du soi, non sa cause. Il n'y a pas de vertu véritable sans réalisation de soi. Quand vous savez, au-delà de toute incertitude, que la même vie coule dans tout ce qui existe et que vous êtes cette vie. Alors, vous aimez tout, naturellement, spontanément. Quand vous aurez réalisé la plénitude et la profondeur de votre amour de vous, vous saurez que chaque être vivant et l'univers entier sont inclus dans votre affection. L'esprit universel fait et défait toutes choses. Le suprême communique la réalité à tout ce qui naît à l'existence. Dire qu'il est l'amour universel serait la meilleure approche que nous offrent les mots. Comme l'amour, il rend tout réel, beau et désirable. Allez au-delà, retournez à la source, vers le soi qui est toujours le même quoi qu'il arrive. En réalité, le monde est perpétuellement créé et recréé par vous. Voyez que toute chose émane de la lumière qui est la source même de votre être. Vous découvrirez que cette lumière est amour et infinie énergie. Toute connaissance coule de vous, comme toute existence et toute joie. Réalisez que vous êtes la source éternelle et acceptez tout comme vôtre. Une telle acceptation, c'est l'amour. L'énergie vient de l'amour. Vous devez aimer pour agir, quelle que soit la forme et l'objet de votre amour. De mon point de vue, l'amour égale qualité d'être. L'être est amour. Ce n'est qu'à l'apparition du « je suis » que naît l'amour. L'amour est la qualité de l'univers. La totalité du perçu est ce que vous appelez la matière. La totalité de ceux qui perçoivent est ce qu'on appelle le mental universel. L'identité des deux, qui se manifeste comme perceptibilité et perception, harmonie et intelligence, objet d'amour et amour, est en perpétuelle affirmation de soi. Je découvre, en changeant le foyer de l'attention, que je deviens la chose même, que je regarde et ressens le type même de conscience qu'elle possède. Je deviens le témoin intérieur de la chose. Cette capacité de pénétrer d'autres foyers de conscience, je l'appelle amour. L'amour dit « je suis tout ». La sagesse dit « je ne suis rien ». En quelque sorte, vous êtes l'espace dans lequel le monde se meut, le temps dans lequel le monde se perpétue. Vous êtes l'amour qui donne vie au monde. À l'éveil, vous découvrez que vous êtes l'amour lui-même qui embrasse tout. L'amour venant de la personne, si intense et si sincère soit-il, attache inévitablement. L'amour dans la liberté, c'est l'amour du tout. Quand vous êtes l'amour, vous êtes au-delà du temps, du nombre. En aimant l'un d'entre eux, vous les aimez tous. En les aimant tous, vous aimez chacun. L'un et le tout ne sont pas exclusifs. La nature de l'amour est sans forme, sans aspect, unifiant, dynamique, actif, omnipénétrant, énergie radieuse. Vous êtes pure présence consciente. Et cette connaissance est de la nature de l'amour. Essayez d'être cet amour qui n'est pas conditionné par le corps mental. Si vous l'êtes, votre amour est total, complet. Alors qu'il est le produit du corps mental, alors que s'il est le produit du corps mental, il devient la cause initiale de vos souffrances. Le détachement ne vient qu'après que vous soyez libre de l'amour du corps. Libérez-vous de l'état corps mental et entrez dans l'état d'amour. Il sera à l'origine de toute félicité. La connaissance « je suis » est née de l'amour. Mais l'illusion la tient tellement sous son emprise que l'amour pour le « je suis » a disparu à l'arrière-plan. Se maintenir en lui est devenu de plus en plus difficile. Avant la manifestation, l'amour était total. L'amour est omnipénétrant. Ces fleurs sont une expression de mon amour. L'épanouissement des fleurs n'est pas l'expression de l'amour individuel, mais de l'amour universel. Fin de l'aventure intérieure.